Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux. Moi c'est Hugo, je suis avec Maxime.
Salut.
Et je suis aussi avec Exerve.
Salut.
Je vous fais des petites vannes, j'alterne entre les deux, vous savez jamais vraiment le...
On est obligé de regarder tes yeux pour savoir qui c'est que tu vas nommer en premier.
Qui aura la grâce d'être salué en premier par Hugo.
Surtout qu'en plus, est-ce que ça détermine pas un peu la qualité de l'épisode en fonction de la personne? Réécouter tous nos anciens épisodes, mais bien sûr. Pour voir s'il n'y a pas un schéma.
Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui fasse une petite fiche Excel, tu vois, en fonction de qui a commencé. Très bien. Alors, messieurs, je suis très content de vous retrouver, comme d'habitude. Très content aussi de ce qui se passe sur notre Patreon, puisqu'on s'approche doucement du premier palier qui est fixé à 300$ et qui nous permettrait de garantir la régularité de l'émission toutes les deux semaines, un vendredi sur deux. Je crois qu'on a à peu près 100... Non, enfin, on approche de la centaine de patrons,
ouais.
Donc on est quand même vraiment super content, puisque bon, ça fait même pas un mois qu'on a lancé le truc.
C'est quoi. Ça, et ça fait à peine 4-5 mois qu'on a lancé le podcast, donc c'est vraiment très récent, et l'engouement, il est là. Le Discord, moi j'étais surpris là, les derniers jours. Tous les jours, en fait, on a toujours 5-6 personnes de plus qui nous rejoignent et qui ne partent pas dans la foulée. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On en profite pour saluer tous les gens du Discord.
Puis ce qui est génial, c'est que c'est toujours très actif. Hein. Et puis même sur des épisodes qui sont assez anciens, puisqu'il y a des gens qui font les jeux un peu au fur et à mesure ou qui s'en foutent un peu de notre rythme et qui font un peu leur popote de leur coin et qui vont aller parler, je sais pas, de God of War, de Céleste même. Donc c'est très cool de voir que ça continue à être alimenté, ce salon.
Et merci aux personnes qui accueillent les nouveaux. Il y a toujours des petits bonjours, des petits bienvenue.
Non, mais c'est cool, vraiment super cordial. L'ambiance.
Il y a combien de actuellement sur le Discord?
On approche doucement des 700, je dirais.
Toujours pas besoin de modérer. C'est toujours fou, d'une. C'est
ça
nickel.
Reste clean. Même quand il y a des fois des sujets qui sont quand même un peu sérieux, un peu graves qui apparaissent, mais les gens continuent d'échanger dans la. Pas forcément dans la bonne humeur, mais en tout cas dans le respect de l'autre. Et ça, c'est vraiment incroyable. Donc merci à toutes et à tous pour ça. Et puis du coup on en profitait aussi pour vous inviter, hein, parce que du coup il y a le Patreon pour nous soutenir, mais si jamais vous écoutez via iTunes ou une appli de podcast où on peut faire des recommandations, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des étoiles, des notes, je sais pas quoi, des petites recommandations sur ce genre d'application, ça marche énormément, ça nous aide à nous faire connaître, vous pouvez également en parler autour de vous, donc merci pour tous ces efforts là.
On grimpe doucement jusqu'au sommet des applis
du podcast
dans
game, hein,
exactement,
on, tu vois, on s'appelait direct fin du game. Voilà. Est-ce que c'était pas une... tout était calculé, hein. Je vous invite à réécouter encore une fois les...
Très bien, alors aujourd'hui on va parler de Life is Strange, la saison 1, on va vraiment se concentrer sur la saison 1, on va essayer de comprendre pourquoi ce jeu a marqué l'année 2015, à la fois pour ses thématiques, sa proposition ludique, et puis voilà, on est parti pour un nouvel épisode de Fin du Game. Alors, Life is Strange, c'est un jeu qui est sorti en 2015, en tout cas courant de l'année 2015. Je crois que le premier épisode est sorti en janvier et la sortie s'est allée sur une dizaine de mois. Il y a eu un épisode tous les 2-3 mois, ça s'est terminé en octobre. Mm-hmm. Et je crois que c'est un jeu finalement qui est un petit peu la dernière chance pour Dontnod, le studio qui l'a développé.
Ouais, 2 ans avant, donc en 2013, le studio avait sorti Remember Me, qui a été un gros échec commercial, qui avait été abandonné par Sony, parce que ça devait être une exclu PS3, qui a été récupéré ensuite par Capcom, si je ne dis pas de bêtises. Et gros échec, l'entreprise était même en redressement judiciaire, donc ça c'est l'étape avant la cessation de paiement, en gros.
Juste pour info, vous y avez joué, vous,
je l'avais fait, Remember Me, ouais, c'est vrai que c'était assez décevant, tu vois, c'était présenté comme un jeu avec à l'écriture Alain Damasio, qui est l'auteur donc de Les Furtifs, qui sort dans pas longtemps, ça se trouve, au moment où vous allez écouter Les Furtifs, sinon c'est évidemment La Horde du Contrevent, un des meilleurs livres
de l'histoire. Grand auteur, qui est un des fondateurs du coup du studio, c'est pour ça qu'il est mis en avant.
Et qui a abandonné le jeu vidéo, bizarrement. Puis Remember Me, c'est étrange. Non, mais c'est vrai que c'était un jeu qui voulait parler de la mémoire et de la reconstruction de souvenirs. En fait, l'héroïne du jeu pouvait remonter dans les souvenirs pour, par exemple, refaire une scène d'enquête, de meurtre et essayer de trouver des indices. Et d'ailleurs, c'est des petites choses qu'on va retrouver dans Life is Strange.
Et du coup, ouais, Remember Me, bah, gros échec commercial, et la Dontnod était vraiment dans la merde, hein, ouais. pour le dire. Alors, je sais pas à quel point c'était apocalyptique, hein, en le présentant comme ça, mais en tout cas, la société allait vraiment pas bien. Et ils ont pu signer Life is Strange avec Square Enix, qui est un petit peu, bah, entre guillemets, c'est Life is Strange et Square Enix ensemble qui ont un petit peu sauvé le studio, puisque le jeu a quand même eu un gros succès. À peu près 2 ans après sa sortie, Square Enix a annoncé avoir fait 3 millions de ventes saison complète, donc pas juste un épisode ou quoi, donc 3 millions. Là aujourd'hui, alors c'est difficile de savoir aujourd'hui parce que l'épisode 1 il est gratuit, donc forcément si tu vas genre sur Steam Spy, t'as, je sais pas, peut-être 10 millions de
oui, et puis aujourd'hui avec toutes les réductions disponibles sur tous les stores différents, enfin j'imagine qu'il a dû être peut-être offert une fois dans le PSN plus ou des trucs comme
bien
ça,
bien sûr, donc, ouais. Par contre il y a un signe qui ne trompe pas, c'est que ça a donné naissance à une nouvelle franchise, puisque du coup Life is Strange, il y a eu un spin-off qui a été développé par un autre studio, il y a Life is Strange 2 qui est en cours de publication au moment où on enregistre le podcast, et Dontnod surtout, aujourd'hui c'est plus du tout, enfin le studio qu'ils étaient il y a quelques années.
Ah oui, maintenant ils ont sorti, il y a Vampire, il y a un autre jeu dont j'ai oublié le nom qui sort l'année prochaine, on avait vu...
Ah oui, c'est encore avec Square, c'est quoi, c'est Double Twin Mirror, je crois.
Twin Mirror, il me semble que c'est quelque chose comme ça, ouais.
On a juste vu un tout petit teasing, il y a eu une petite news, on n'en a pas entendu parler. Là, ils viennent de faire un autre teasing d'un gros projet qui devrait sortir d'ici plusieurs années avec Focus.
Oui, ils viennent de signer un gros deal.
De signer un gros deal. Donc vraiment, Dontnod, c'est un studio donc parisien qui là reprend en fait clairement la pente ascendante après avoir eu un début de vie assez compliqué. Là, on a l'impression qu'ils sont quand même sur une bonne lancée.
Ouais. Et surtout qu'en 2015, du coup, Life is Strange, vraiment, c'était un jeu. On était un peu sur la vague des Telltale, c'est un jeu qui a surfé un peu sur cette proposition-là.
Walking Dead saison 1, c'est 2012, si je dis pas de bêtises, qui a été un succès phénoménal dans le monde entier et qui a lancé ce qu'on appelle la recette Telltale, qui a propulsé le studio. On le sait pas vraiment encore en 2015, mais Telltale, ils ont un peu sorti leur meilleur jeu, leur plus grand succès, en fait, qui était donc Walking Dead. La saison 2, je suppose qu'elle a plutôt bien marché aussi, et The Wolf Among Us, qui a dû sortir, je crois, en 2013, peut-être 14. Et en fait, depuis, là, aujourd'hui, on le sait, mais Telltale, le studio a coulé, ils ont même annulé certains jeux qu'ils avaient en cours et qu'ils avaient annoncé, ils ont juste pu terminer la dernière saison de Walking Dead, ça a peut-être été délégué.
Non, en fait, ça a été filé à un autre studio qui a récupéré la fin. Le studio a été démantelé. Hein. D'ailleurs, il y a un article assez effrayant là, qui est sorti ce matin d'un des anciens dirigeants. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça de Telltale, qui expliquait qu'en gros, c'est parce qu'ils n'avaient pas suffisamment crunché. Que le studio n'était pas à flot, alors qu'en fait, les mecs, ils crunchaient déjà 100% du temps, puisqu'ils avaient un rythme de production. Quand Telltale a sorti Walking Dead, ils avaient déjà fait pas mal de jeux auparavant, puisqu'ils avaient fait Les Retours à le futur, ils avaient récupéré Monkey Island, ils avaient récupéré Sam & Max. Donc ils ont vraiment participé à la relance, on va dire, du jeu narratif et du jeu d'aventure dans le sens point and click du terme. En fait, ils ont enchaîné. Après, il y a eu du Game of Thrones, il y a eu du Batman, il y a eu du Lego, il y a eu Borderlands. T'avais l'impression, tu sais, c'était la période où tous les jeux devaient avoir leur version Telltale.
En fait, ils ont vraiment viré l'aspect point and click pour vraiment garder l'aspect narratif. Tu le vois, dans la première saison de Walking Dead, il reste un petit peu des résidus de point and click et ça a vraiment disparu au fil des ans parce qu'ils se sont rendus compte que c'est ça qui marchait, c'était les choix, les implications, le format épisodique qui marchait plutôt aussi, bien. Clairement, Life is Strange saison 1 a surfé dessus, ils ont eu complètement raison. C'est en partie pour ça, je suppose, qu'il y a un format épisodique. Peut-être aussi parce qu'ils étaient dans une situation difficile, et c'était difficile, je suppose, de produire le jeu complet. Et du coup, ce format épisodique a permis des rentrées d'argent avant de pouvoir tout fournir, mais aussi de s'adapter aux différents retours des joueurs en cours.
Oui, parce que d'ailleurs, il me semble que quand l'épisode 1 est sorti, ils avaient quasiment fini le deuxième, mais donc voilà, ils étaient vraiment en cours de production sur les autres.
Ils étaient en flux tendu, ils ont vraiment eu une approche, ce qu'on va appeler... En fait, c'est le format épisodique, c'est un accès anticipé qui dit pas son nom. C'est-à-dire qu'au lieu de simplement faire d'avoir une roadmap et de faire des patchs au fur et à mesure, tu annonces aux gens que tu vas faire des contenus au fur et à mesure. Mais quand ils ont lancé le truc, ce qu'il faut comprendre, c'est que Square Enix devait leur faire confiance, mais pas suffisamment pour leur autoriser de faire un jeu complet. Et ils voulaient, en fait... mettre le doigt dans l'eau, tu vois, pour prendre la température et savoir ce que ça allait donner. Donc il y avait énormément d'enjeux autour de ce premier épisode. Le deuxième épisode était effectivement fait, et à partir du troisième épisode, et de toute façon je pense qu'on en reparlera, ça se sent, le studio avait plus de moyens, un peu plus de confiance également, et ils avaient également des retours des joueurs, puisqu'ils ont pu un petit peu adapter. Alors, on n'est pas dans vraiment le studio n'a pas suffisamment de flexibilité, d'agilité pour transformer le jeu, évidemment, mais on sent quand même qu'il y a des petites touches à droite à gauche qui montraient que le jeu avait un certain succès au fur et à mesure.
sûr.
Bah, surtout que dès le début, on a une annonce de ce qui se passe à la fin. Donc voilà, ils ne pouvaient pas non plus sortir complètement de leur schéma narratif, de leur structure. J'imagine quand même qu'ils savaient plus ou moins où ils allaient, même s'ils ont adapté des choses, et on y revient.
Oui, oui, la comparaison à l'Early Access, elle s'arrête sur le fait qu'ils ne vont pas non plus ultra-patcher l'épisode 1 pour changer, tu vois, vraiment des directions scénaristiques ou de gameplay. Tu vois, dès le début, ils savaient qu'ils allaient avoir telle mécanique, qu'ils allaient traiter telle thématique, qu'ils allaient avoir tel personnage. Enfin, l'épisode 1, c'est évidemment celui qui a pris le plus de travail de production, parce qu'il fallait tout envisager, en tout cas les grandes lignes des futurs épisodes.
Exactement. Et tu le disais, effectivement, donc il y a cette inspiration Telltale, à la fois sur le format, mais à la fois sur cette idée de on va avoir des dilemmes, il va avoir une grosse emphase sur les personnages, mais il y a aussi cette mécanique de rewind qui, elle, a été un petit peu, qui a été l'accroche, un petit peu, genre, bon voilà, c'est ça qu'on va faire de différent, il y aura quand même du gameplay, entre guillemets, on ne sera pas simplement sur un jeu purement narratif. Et c'est ça un petit peu, je pense, l'accroche commerciale. Et bah, c'est vrai que dès le début, le jeu a quand même réussi à attirer du monde, à se faire sa place. Et ça m'a quand même assez impressionné, parce qu'ils ont quand même une proposition. C'était quand même un vrai risque, je pense, pour Square Enix, de miser sur un jeu qui est fait déjà par un studio de cette envergure-là, mais aussi qui se centrait sur deux personnages principaux féminins, des choses comme ça. Donc c'était quand même assez audacieux de leur part, je pense, au début.
Mais c'est justement la prise de risque qui est, tu vois, qui une fois de plus est récompensée, parce que dans la campagne de com du jeu, quand ils ont été annoncés, justement, ils avaient pu instantanément marquer les gens par leur choix graphique, puisque du coup, il avait une esthétique qui était encore une fois le résultat du manque de moyens et surtout de temps, parce qu'ils peuvent pas avoir un résultat comme un The Last of Us quand tu développes un jeu tous les deux mois, c'est évident. Mais ils avaient réussi quand même à trouver une patte graphique qui accrochait directement. On sentait qu'il y avait une ambiance, une atmosphère, un univers très teenage movie dans les trailers qu'on avait les premières fois, qui changeait en fait, parce que du coup avec Telltale on était toujours dans du jeu à licence, et là on avait en fait une histoire originale qui arrivait. Square Enix avait quand même une énorme armada de marketing pour pouvoir s'assurer qu'il y avait des articles partout dans la presse, et donc le jeu a été tout simplement surveillé par les professionnels et par les joueurs, et donc il a eu en fait cette espèce de masse critique de gens qui ont joué et qui ont pu en parler autour d'eux. Et la bonne nouvelle, c'est que la mayonnaise elle a pris, quoi.
Comme disait, il s'est bien vendu, et sur Metacritic, il a 85, c'est quand même très propre pour un jeu de cette envergure.
Tout à fait, tout à fait. Alors, on va revenir un petit peu sur l'histoire de Life is Strange. Je crois que cette fois-ci, c'est Exerf qui va s'y coller, qui va nous raconter l'histoire de Max.
En fait, tu vois, c'est en fonction de qui tu regardes au début de l'épisode, on sait qui va faire le contexte, qui va faire
Non, je vais pas mentir, je prévois pas ça à ce point-là. Je suis désolé.
Et moi qui t'imaginais comme un mec machiavélique avec ton chat, là, sur ton siège, le docteur Mad, c'est lui. Donc, l'histoire de Life is Strange saison 1, donc en fait, on va suivre principalement deux personnages, donc Maxine et Chloé. Donc Maxine, en fait, on apprend assez rapidement qu'elle vivait dans une ville avant qui s'appelait Arcadia Bay, qu'elle a quitté avec ses parents pour s'installer à Seattle pendant quelques années. Elle avait laissé du coup sa meilleure amie, Chloé Price, qui était sa copine de collège, et elle y revient en fait pour suivre les cours d'un professeur de photographie qui s'appelle, je sais plus son prénom, mais c'est professeur Jefferson. Je sais pas si on connaît
son prénom.
Je crois
que c'est Mark.
Mark Jefferson ou un truc comme ça peut-être. Parce qu'elle, elle est photographe, elle aspire à devenir photographe, elle est tout le temps en train de faire des selfies, elle a un petit Polaroid, donc un petit côté hipster qui s'installe dès le début.
Elle intègre la Blackwell Academy, elle a une bourse en fait ce lycée qui fait un peu université, on en reparlera peut-être après, et qui est reconnu dans le monde entier, notamment comme tu disais avec Monsieur Jefferson et ses cours de photo.
Voilà, et du coup comme elle revient dans sa ville, elle va retrouver Chloé. Alors les circonstances sont un peu particulières, parce qu'on commence le jeu, elle est dans le cours, elle est un peu, elle a un premier cauchemar où elle voit une espèce de tornade qui va détruire la ville, et donc ça c'est l'espèce de menace qui s'installe dès le premier épisode. Et en fait, elle assiste quelques minutes plus tard au meurtre de Chloé, qu'elle reconnaît pas tout de suite, dans les toilettes, parce qu'elle est cachée, elle est en train de prendre un petit papillon en photo. Et c'est là qu'elle découvre qu'elle a un pouvoir particulier, elle peut remonter le temps de quelques instants. Le monde, en fait, remonte le temps, mais elle reste fixe. C'est très particulier. Et du coup, elle arrive à remonter le temps, déclencher l'alarme incendie, sauver Chloé. Et à partir de là, toute l'aventure commence. Donc, il y a toute une longue phase de retrouvailles avec sa meilleure amie, Chloé, qui a une vie de merde, on peut le dire. Depuis que sa meilleure amie est partie, son père William, il est mort dans un accident d'avion.
De voiture.
Je sais pas pourquoi je pensais à l'avion, mais il est mort dans un accident de voiture. Sa mère, elle s'est remariée avec un ancien militaire, David, qui est un peu taré sur les bords. Tu sais, c'est vraiment le cliché de l'américain sécurité avec son bunker anti-atomique et tout, là. Mais il est quand même, il a un bon fond. Voilà, c'est ce que Joyce dit tout le temps. Il a un bon fond, je vous assure. Bref, donc il y a ces retrouvailles-là. Chloé, elle, c'est vrai qu'elle a une vie pas facile, donc elle entraîne Max dans une enquête, puisque du coup, elle a perdu sa meilleure amie qui s'appelle Rachel Amber, qui a disparu depuis quelques temps. Et grâce au pouvoir de Maxine, les deux vont pouvoir à la fois se retrouver et essayer de remonter la piste de Rachel qui a disparu. Alors, il y a évidemment tout un tas d'événements. Je ne sais pas si je vais raconter tous les épisodes. L'enquête, en fait, s'étale sur plusieurs épisodes. Il y a différents événements à Blackwell. Il y a une amie qui subit du harcèlement, Kate, qui tombe de suicider. On peut la sauver ou on ne peut pas la sauver. On découvre qu'il y a une famille, les Prescott, qui détient en fait un peu les clés de la ville, parce que du coup au niveau des finances ils ont tout l'immobilier de la ville, et donc on sent qu'il y a une espèce de conspiration, en tout cas de trucs machiavéliques derrière tout ça. On découvre qu'en fait à la fin, plot twist, c'est pas que les Prescott, c'est également le professeur Jefferson, incroyable, le beau gosse depuis le début avec ses petites lunettes et ses petits cheveux là, qui était en fait finalement un gros pervers, puisqu'il enlève les jeunes filles pour les prendre en photo. Alors il a tout un monologue évidemment de méchant, parce que c'est un grand méchant, donc il lui faut un monologue où il nous explique que c'est parce qu'il veut essayer de saisir vraiment l'instant où elle passe de l'innocence à l'âge adulte, blablati patata. Bref, grâce au pouvoir de Maxine, elle va pouvoir en fait empêcher tout ça. Elle va même découvrir que ce pouvoir peut lui permettre de remonter très très loin. En regardant des photographies, elle peut remonter des années en arrière. Elle va essayer notamment de sauver le père de Chloé. Foutre un bordel sans nom. Ça va créer des gros paradoxes temporels où finalement le père de Chloé, il est en vie, mais Chloé, elle a eu un accident, elle à sa place, et elle se retrouve à être tétraplégique dans une espèce de réalité parallèle qui dure tout le début de l'épisode 4 ou 5, je sais plus. Non, tout le début de l'épisode 4, c'était un peu le gros twist au milieu de la saison.
Ouais.
Et donc finalement, ce qui se passe, c'est que quoi qu'elle fasse, elle se rend compte finalement qu'elle ne peut pas empêcher l'arrivée de la tornade, parce que c'est un truc qui est un peu oublié, hein. C'est ça qui est rigolo, c'est que dans l'histoire, on l'oublie un peu, puis à un moment, c'est genre, merde, c'est une tornade.
Ça revient fin d'épisode 4, et enfin, même début de l'épisode 5, que tu dis, on va enfin avoir la tornade.
La fameuse tornade, que va-t-il se passer?
Oui, parce que ça se dure sur une semaine finalement, cette histoire.
C'est ça, ça dure qu'une semaine, mais comme elle remonte dans le temps, évidemment, ça lui est paru des années, évidemment. Intense. Et donc, pour empêcher finalement ce cataclysme, elle se retrouve face au choix ultime qui est, elle doit. Chloé en fait se rend compte, parce qu'elle est déjà mortelle 46 fois, donc elle se rend compte que c'est peut-être à cause d'elle que tout ce bordel arrive, ou en tout cas des pouvoirs de Max. Et du coup, elle lui propose, elle la force à choisir entre sacrifier Chloé et dans ce cas-là sauver la ville, ou à l'inverse, sacrifier la ville et sauver Chloé.
Oui, c'est évidemment le dilemme. Les pouvoirs de Max en fait seraient ce qui a provoqué l'arrivée de cette tornade, comme elle a un petit peu joué avec le temps.
Parce que
ça se métaphorise dans une grande tornade.
Je l'ai pas dit, mais il y a aussi des trucs de météo bizarres. Il y a un épisode où il neige alors que c'est le printemps. Il y a un épisode où il y a une éclipse de soleil en pleine journée alors que c'était pas prévu. Et à la fin, il y a même un épisode où il y a deux lunes ou deux soleils les uns à côté des autres.
Oui, tout à fait.
Ils sont sur Tatooine à la fin.
C'est vrai que ça m'a fait penser à Star Wars effectivement.
Et juste en ça, t'as des baleines qui sont échouées sur la plage. Le menu qui change d'ailleurs, tu sais, le menu principal quand
de chaque épisode
qui évolue en fonction de chacun de ces événements, pour que tu te rappelles un petit peu de ce qui s'est passé la dernière fois.
Et je pense que j'ai un peu fait le tour. C'est assez dense, il y a vraiment beaucoup d'événements. J'ai zappé évidemment la plupart des petits détails.
On va y revenir parce qu'il y a plein de thématiques qui sont traitées tout au long de ce jeu, parce que 5 épisodes, mais comme tu disais, il y a l'accident de Chloé, ça c'est quelque chose qui dure longtemps. Il y a une notion de harcèlement scolaire, enfin tout ça.
Oui, il y a beaucoup de personnages en fait secondaires qui ont à chaque fois leur petit arc narratif, des sous-plots entre guillemets, qui vont s'entremêler au milieu de tout ce gros package en fait.
Et comme on est dans un jeu vidéo et pas dans une série télé, on va pouvoir choisir de les découvrir ou non, puisque du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir aller vraiment essayer de gratter pour grappiller des informations et du lore en essayant d'aller discuter avec tout le monde, ou au contraire, zapper tout ça, aller sur la quête principale, comme on dit dans un RPG, et aller voir la fin et le boss de fin, quoi.
Exactement. Ce jeu-là, on en parlait, donc il y avait cette mécanique, l'accroche vraiment de Life is Strange, c'était cette mécanique de rewind, et en fait, elle se met en place de plusieurs manières dans le jeu. La mécanique de rewind, c'est pas inédit dans le jeu vidéo, hein. Moi, je pense à, je sais pas, Prince of Persia, Sand of Time. Je pense à Braid aussi, qui utilisait des choses.
Day of the Tentacle.
Oui, peut-être bien. Alors ça, c'est les références des papys, donc je ne connais pas. Non, c'est juste pour
parler des droits. J'ai joué, mais parce que j'ai un grand frère.
J'ai un grand oncle qui est maintenant en maison de retraite.
Non, je pensais aussi à un autre jeu, vous savez, sur Xbox, ça s'appelait Blinks ou Binks ou un truc comme ça. Est-ce que tu te souviens de ça?
Et puis il y avait Time Splitters. Enfin, tu vois, des jeux, la mécanique de temps, c'est un truc qui est assez effectivement classique dans les jeux vidéo. Je pense que Sand of Time, c'était vraiment celui qui a mis en place ce truc-là.
Où on appuie vraiment sur un bouton où tu reviens vraiment en arrière, quoi. Et elle se met en place donc de différentes manières dans Life is Strange. D'abord, il va avoir dans la résolution de puzzle, puisque dans Life is Strange, on va se retrouver parfois dans des situations où il faut qu'on atteigne un objet, qu'on ouvre une porte. porte ou quelque chose comme ça. Et la plupart du temps, ça va être une sorte de trial and error, on va dire. C'est-à-dire que bah, on va faire quelque chose, ça va mal se passer. Par exemple, je vais attraper une bouteille, bah, j'essaie de l'attraper et bim, la bouteille tombe par terre et se casse. Bah, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu remontes dans le temps et tu vas pouvoir interagir avec un petit coussin par terre pour mettre le coussin à l'endroit où la bouteille va tomber et hop, elle ne tombera pas et tu pourras récupérer la bouteille. Donc, il y a un petit peu ce principe-là qui va connaître, je pense, son apogée avec l'épisode avec, tu sais, quand David rentre, rentre dans la Dark Room avec Mr. Jefferson, où là, faut vraiment faire... Eh ben, tu as beaucoup d'échecs parce qu'il faut arriver à trouver vraiment la bonne séquence de choses à faire pour que David arrive à neutraliser Mr. Jefferson quand, au moment où Mr. Jefferson a enfermé Maxine dans son espèce de salle d'expérience où il fait ses petites photos.
Ça, pour moi, c'est un passage super drôle. En fait, c'est vraiment, tu sais, c'était Mr. Bean espion, tu vois. Bon, le film en soi, il existe parce que du coup, c'est Johnny English, je crois, donc ça marche pas.
T'as rien foutu de ma gueule avec mes références de Julie Cassart et tu me sors des films de Mr. Bean, quoi.
Attends, Mr. Bean, s'il te plaît, c'est même autre chose que David dans ta queue.
Moi, mon David, il est mort 5-6 fois d'affilée.
Ah, mais pareil.
C'était drôle, quoi.
Ouais. Et moi, j'ai eu la version où il fallait se prendre en photo et du coup, utiliser le Polaroid pour lui mettre un gros coup dans la gueule.
Oui.
Mais apparemment, il y a d'autres
trucs. Il y a plusieurs choses que tu peux faire, effectivement, mais il faut quand même que tu arrives à voir. En fait, il faut que Maxime voit comment elle se trompe pour pouvoir ensuite débloquer la chose qu'elle peut faire pour ne plus avoir à se tromper, en fait. Donc, y a ce côté un petit peu trial and error. Et puis, il y a aussi, bien sûr, pour naviguer dans l'arborescence des dialogues, puisque souvent, on va pouvoir, en fait, on va dialoguer, on va découvrir une information, et en fait, on va pouvoir remonter dans le temps pour se servir de cette information pour débloquer d'autres opportunités, en fait, dans les dialogues. Je sais que, par exemple, tu as une meuf, à la fin de la conversation, elle t'apprend que sa mère, elle est malade, ouais. Et elle te dit, non, mais c'est bon, maintenant, j'ai plus envie de parler. Et du coup, si tu reviens dans le temps, et eh bien tu utilises directement la mère malade pour rentrer dans la conversation et tu vas pouvoir apprendre d'autres choses.
C'est toujours un peu factice d'ailleurs, parce que il te lâche des petites bribes d'informations et si tu commences la conversation par ce truc-là, d'un coup, pouf, c'est tes meilleurs amis, ils s'ouvrent et ils se révèlent leur plus dark secret.
Puis,
à toi.
T'as même une petite icône qui s'affiche quand tu as appris une nouvelle information qui pourra te servir, t'as une petite musique et une icône, mais parfois c'est fait de façon plus ou moins subtile, parce que parfois il y a ce côté un petit peu puzzle, genre, et puis même un peu fantasme de classe où le professeur il te pose une question, tu sais pas.
Oui, exactement.
Tu remontes dans le temps et là t'as la bonne réponse et tu fais un peu la smartass
daguerréotype.
mais c'est
le truc du début de jeu, ça.
C'est bien parce que ce début de jeu il te montre tout de suite vraiment l'utilisation qu'un lycéen ferait de ce pouvoir, genre ah ouais, le prof il m'a bien eu, mais si j'avais pu remonter dans le temps, maintenant je connais la réponse.
Et c'est un excellent prologue, moi je l'ai trouvé vraiment brillant, en fait, ce tuto là, parce qu'il met en scène la mécanique de jeu instantanément et tu comprends vraiment toutes les options que tu vas avoir instantanément. C'est très très fort parce que c'est pas un tuto à base de pop-up, tu vois, genre à la Sekiro, où t'as un pop-up qui arrive, voilà, vous avez découvert un objet, appuyez sur X pour utiliser l'objet, là c'est vraiment genre, oh merde, putain, j'aurais pu le savoir, hop, je remonte dans le temps, et hop, tu trouves la bonne réponse, et tu comprends tout de suite l'intérêt et l'impact de cette mécanique.
Même s'il y a une certaine mécanique qui doit vraiment te l'expliquer, parce que là, c'est de la suspension d'incrédulité, c'est les objets que tu ramasses et mets dans ta poche, ils restent en fait dans ta poche, même si tu remontes le temps et t'as une petite icône en haut, et là, le jeu, là, bon, t'as un pop-up, parce que tu dois prendre un marteau pour taper sur l'alarme avant que Chloé se fasse tirer dessus, et en fait, t'as pas le temps physiquement, donc tu prends le marteau, elle se fait tirer dessus, tu remontes dans le temps, et t'as
déjà
le marteau sur toi.
Et du coup, tu peux directement aller.
Et là, pour le coup, t'as besoin du pop-up parce que tu fais bon, ok, c'est un constat, tu fais ok, le monde il est comme ça, son pouvoir il marche comme ça, ok, maintenant on peut continuer.
C'est vrai que moi ça m'a déstabilisé plusieurs fois le pouvoir de Maxine, même le fait justement que en fait c'est elle, enfin elle ne bouge pas et elle fait remonter le temps, et du coup tu peux te téléporter, mais c'est vrai que tu peux vraiment faire des choses qui sont un peu paradoxales, notamment quand on doit pénétrer dans le bureau du directeur avec Chloé. Moi c'est vrai que c'est une option en fait que mon cerveau n'avait pas envisagé, de se dire ah ouais, en fait si je rentre dans le truc et que je fais péter, parce qu'il faut faire péter une bombe, je crois. Si je fais péter la bombe, que je rentre dans le truc et que je remonte dans le temps avant qu'on ait fait péter la bombe, bah finalement je suis déjà dans le bureau. Donc c'est vrai que c'est des choses qui m'avaient un petit peu perturbé comme ça. Et puis aussi la première fois que j'ai joué, parce que moi j'avais joué le premier épisode à la sortie du premier épisode, je m'étais retrouvé bloqué dans le placard de Chloé puisque j'étais revenu trop longtemps en avant, en fait avant qu'elle rentre dans la chambre. Du coup j'étais dans une espèce de paradoxe. Alors j'imagine que c'était un peu un bug du jeu, j'ai dû relancer ma console, mais c'est vrai que ça m'avait quand même pas mal perturbé, cette mécanique.
Ce placard en fait il est bloqué à la base, tu peux pas l'ouvrir, et ça se trouve t'es remonté dans le temps et
peut-être.
Tu vois le balai qui se remet devant, qui va dire non, attends.
Et du coup, voilà, je suis tombé dans ce piège-là. Et c'est vrai que c'est pour ça que plusieurs fois pendant le jeu, j'ai été un peu déstabilisé par cette mécanique. Et puis, elle va servir aussi, et je pense que c'est là qu'elle est la plus intéressante, c'est à nous faire reconsidérer à chaque fois nos choix. Puisque, comme dans les Telltale, on va avoir à certains moments du jeu des dilemmes. Le premier, je crois, que nous propose le jeu, c'est de prendre Kate en photo, il me semble, quand elle se fait embêter par David.
Ouais.
Et là, on va vraiment avoir un dilemme. Tu vas faire ton choix comme tu le ferais, par exemple, dans un Telltale, et puis tu vas voir un petit peu les conséquences à court terme de ton choix. Mais Max va se dire, ah, peut-être que j'aurais pas dû faire ce choix-là. Et là, cette fois-ci, tu as le pouvoir de revenir en arrière et d'éventuellement d'explorer un petit peu le second choix, même si à la fin, tu devras quand même faire un choix.
Et ce qui marche bien du coup, c'est que comme on peut revenir que quelques minutes en arrière et qu'on peut évidemment pas avancer
bien
dans
sûr,
le temps, en fait, à chaque choix que tu vas faire, alors déjà il y a un vrai feedback quand tu as un vrai choix important, tu as une musique spéciale, tu as l'écran qui se brouille,
espèce de flou,
tu comprends que ça y est, votre choix aura des conséquences.
Tout à fait.
Et tu sens que ça va être important, mais du coup, toi tu reviens et tu doutes, mais Max elle doute quoi qu'il arrive, c'est-à-dire que quand tu testes, elle va toujours te dire ah j'aurais peut-être dû faire l'autre truc, et t'es là genre. c'est ultra frustrant parce que tu te dis merde, tu vas y penser, et ça marche très très bien dans la mécanique de jeu, parce que dans le rythme, une fois que toi tu reprends après la partie, tu vas tout le temps avoir en tête cette espèce de petit Inception où tu vas te demander le doute, tu sais, le doute il est installé et tu te dis est-ce que j'aurais pas dû faire ça.
Et
pourtant, ça marche très bien.
Et tu peux même faire un choix, revenir dans le temps, faire l'autre choix et choisir ce qui te plaît le plus.
Oui.
Mais au final, tu ne maîtriseras pas, comme tu disais, c'est que quelques minutes en arrière, donc tu maîtriseras pas les conséquences long terme
de ce
choix. Parce que sur le papier, tu peux dire c'est un peu un Walking Dead mais avec la triche. Mmh. C'est les choix, mais je peux remonter dans le temps et prendre le meilleur choix. Mais en fait, non, le jeu.
Il n'y a jamais vraiment de meilleur choix. Chaque action aura des conséquences. D'ailleurs, c'est ce qu'ils disent à chaque fois, à chaque début d'épisode, t'as une petite phrase pour bien te rappeler que ça aura des conséquences dans le présent, dans le passé et dans le futur.
Oui, alors dans le passé, bon.
assez
là, je pense qu'ils sont un peu emballés. Mais oui, c'est vrai que c'est malin de te laisser en fait cette frustration de pas te montrer le résultat de tes conséquences. Parce que quand tu fais un choix dans un jeu vidéo, d'habitude, tu vas voir la conséquence de ce choix. Tu vois, ça te permet de valider. Tu fais un choix, tu vois le résultat. Est-ce que ça te plaît ? Oui, non. Là, tu fais un choix. Mais tu peux pas savoir si ça te plaît en fait. C'est juste peut-être tu vas extrapoler, ça va te forcer à réfléchir et tu verras bien.
Et puis ça te met face au fait que parfois t'as des événements qui arrivent et il y a juste pas une solution qui te plaira forcément. Les deux, ça peut être des choses qui auront des répercussions que tu ne désires pas.
Alors parfois le jeu va quand même mettre un petit peu de challenge avec cette mécanique là. Moi je me souviens particulièrement dans l'épisode 2 où à un moment tu dois prouver que tu as des pouvoirs à Chloé, et c'est vrai que là le jeu va se mettre un petit peu en mode un petit exercice de mémoire, puisque tu vas devoir à la fois déjà observer toute une scène et donner quatre petits événements très précis à Chloé qui se passent, et puis après Chloé elle va te dire ouais je suis pas convaincu, dis-moi ce que j'ai dans mes poches. Alors tu pourrais te dire, au début je me disais ok, je vais lui dire qu'elle a des clopes ou des trucs comme ça. Non, pas du tout. Il faut lui dire précisément combien de sous elle a, le tampon de son ticket de parking ou un truc comme ça,
le
nombre de cigarettes.
Donc
c'est vrai que elle te montre plein de choses comme ça et tu dois vraiment faire un effort de mémoire pour tout te souvenir et lui donner les quatre bonnes réponses pour arriver à lui prouver. Et c'est vrai que moi, je suis un peu une quiche sur la mémoire court terme comme ça. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal, j'ai dû revenir longtemps, plusieurs fois en arrière. Et c'est vrai que ça m'a un peu freiné dans cette progression. Et c'est pas quelque chose que j'ai particulièrement apprécié dans le jeu à ce moment-là.
Non, c'est vraiment dommage. Comme on disait, c'est intéressant d'avoir cette mécanique dans un jeu narratif, parce que tu vas avoir ce rapport au choix, le fait de pouvoir revenir, choisir ce que tu veux, mais en fait quand même subir les conséquences. Et là, on est vraiment, pour moi, dans une espèce d'attachement à des codes de jeux vidéo, en fait, mais qui sont pas du tout liés à l'histoire. C'est vraiment, on va tester tes capacités, et si c'est pas ça, entre guillemets, tu perds, tu vois. C'est une forme de game over. En tout cas, tu es bloqué.
Tu es bloqué, ouais.
Et
c'est ça.
Il faut que tu reviennes ensemble. Et puis, narrativement, enfin, ça n'a pas vraiment de sens. Tu peux prédire 75% du futur à Chloé. Elle va faire, non, je suis pas très impressionné. C'était pas une mouche, c'était un cafard, ok, même. Et non, tu peux pas prédire le futur. Enfin, tu dis, c'est un peu dommage. Ils auraient pu, au moins mettre un truc, quitte à le faire, mettre un truc du style, à partir de 50%, ils adaptent des dialogues de Chloé, c'est pas exactement ça, mais t'as quand même prédit la moitié du futur, c'est assez impressionnant.
Oui, après, on en parlait dans l'intro, mais c'est vrai que c'est pendant l'épisode 2, je pense qu'on peut le dire
c'est
dès maintenant, filler, c'est un peu un filler, effectivement. Ouais. Et là, tu sens qu'ils ont un petit peu tiré un petit peu sur certains cordons. Et ça se sent pendant ce passage-là. Ça se sent évidemment quand même le passage où il faut récupérer des bouteilles dans le fameux passage des bouteilles. C'est vrai que bon, c'est pas extrêmement amusant. Ensuite, un peu, il y a cette scène là où elle tire contre les pneus. elle peut se prendre une balle qui rebondit dans sa tête.
Il y a un moment, il y a Chloé qui s'amuse avec une arme et qui tire donc contre des bouteilles, après contre une voiture. Et nous, on lui dit en fait, bah, tire sur le capot ou tire sur la porte ou dans la vitre. Et si tu tires dans le capot, la balle elle ricoche et Chloé se tire dessus. Et toi, donc ta pote, bah, elle vient se flinguer. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Tu remontes le temps. Et puis, plutôt que dire bon, on arrête les conneries ou je sais pas, d'être traumatisé par le fait que c'est buté, tu fais bon, bah, tire dans le pneu, vas-y, allez, continue. Enfin,
ouais, mais c'est un peu choquant, parce qu'on commence à s'habituer au fait que Chloé va mourir, tu vois. C'est presque le running gag du jeu, c'est-à-dire que Chloé elle meurt je sais pas combien de fois durant les 5 épisodes, enfin elle a des possibilités de mourir. Non mais ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment, comme c'est un format épisodique et que du coup ils avaient pas encore anticipé le... On n'est pas face à une série télé où ils ont tourné toute la première saison et ils la balancent sur Netflix ou je sais pas quoi. C'est vraiment, ils avaient fait le premier épisode et une partie du deuxième, mais ils savaient pas ce que ça allait donner. Et tu le sens vraiment, le 2, il y a pas de gros enjeux, il y a pas de grosses avancées au niveau de l'histoire. Alors on découvre un peu plus la relation entre Chloé et Max et ça se tourne vraiment autour des deux filles, mais ça s'arrête là.
Même si ça se termine sur Kate, ça se termine sur
le
Kate,
moment
qui est quand même une scène très intéressante. Vraiment, je trouve que l'épisode 2, bon, bah, c'est probablement celui que j'aime le moins et qui m'a un peu plus le gonflé, mais c'est vrai qu'il se termine sur cette scène et là qui est très forte, puisque justement, bah, Maxine n'a plus le pouvoir, enfin, elle doit empêcher Kate de sauter d'un toit, puisqu'elle est harcelée parce qu'il y a une vidéo qui tourne d'elle où elle embrasse des gars un petit peu à son insu. Et en fait, bah, y a beaucoup de violence psychologique qui s'abat sur elle, puisqu'il y a plein de personnes qui se moquent d'elle sur Facebook. Ou aussi dans le... Alors c'est dans pas Facebook, hein, dans
non,
le
non,
jeu.
Non, ils ont pas le droit de lui dire.
Et qui relève le fait qu'elle est très chrétienne, et ça rajoute à tout ce harcèlement.
Exactement, et donc tu as un passage où tu dois l'empêcher de sauter du toit, et cette fois-ci, là, il change la règle, ça y est, Maxine, elle peut plus servir de son pouvoir, parce qu'elle l'a trop abusé dans la décharge avec Chloé à essayer de la sauver, et du coup...
Elle a plus de mana.
Les
batteries sont à plat.
Exactement, elle saigne du nez même, donc ça y est, c'est fini. Et là, cette fois-ci, tu n'as plus ce pouvoir là, et du coup je trouve que cet enjeu, on gagne beaucoup plus d'enjeux, puisque on a plus ce filet de sauvetage de se dire je pourrais revenir en arrière si je me plante. Et d'ailleurs il y a une partie des gens qui n'ont pas réussi à sauver Kate, et ça aura pas vraiment d'impact du coup pour la suite, mais mine de rien ça te débloquera quelques scènes si tu as Kate avec toi jusqu'au bout.
Kate qui a été un personnage qui a été très apprécié par les joueurs, et du coup dans le chapitre 4 je crois, ils ont rajouté une scène où on peut la visiter à l'hôpital, donc quand on l'a sauvée évidemment, parce que sinon elle est morte. Et
tu parles pas aux morts, toi.
Les pouvoirs de...
Ils sont assez limités finalement,
c'est un peu naze.
C'est pas Captain Marvel.
Et donc ça a vraiment été permis en fait grâce au format épisodique où les joueurs ont bien aimé Kate à la fin de l'épisode 2, et du coup ils se sont dit on va rajouter une petite scène après.
Ce qui est très intéressant dans la construction du personnage de Kate et dans la façon dont ils arrivent à cette espèce de climax où elle essaye de se suicider, c'est que c'est un perso qu'on voit en fond, en toile de fond. On la voit dès le premier épisode, on voit bien qu'elle est en train de chialer. On découvre, si on fouille un peu plus, on a l'occasion de se balader dans le dortoir, c'est un des moments réguliers du jeu, on se balade dans le dortoir des filles qui sont toutes en internat, et du coup on apprend ce qui s'est passé, le fait qu'elle a été droguée, le fait que Nathan l'a pris en photo, etc. Enfin, on commence à voir les différentes pièces du puzzle autour de Nathan, et de la Dark Room qui commencent à s'installer. Et ce qui est rigolo, c'est que tu l'avais oublié parce que tu étais en train de t'occuper de Kate. Et comme très vite, il t'installe, je trouve, le joueur dans une espèce de mood de tu es Max et c'est toi qui as le pouvoir, donc c'est toi qui sauve les gens. On a cette scène, je me souviens très bien, quand elle bloque le temps et qu'elle remonte et que tu vois tout le monde en train de courir pour essayer de sauver. C'est un moment qui était très poignant. Donc c'est vrai que Kate, moi j'étais content d'avoir réussi à la sauver, tu vois.
Sur ce tableau figé, en fait, t'as un peu deux types de comportements. T'as par exemple David qui, lui, effectivement, se précipite, qui est le gardien de sécurité, beau-père de Chloé, et qui se précipite vers l'escalier pendant que la plupart des autres élèves sont en train de filmer avec leur smartphone. Donc t'as un peu aussi ce côté. Elle est vraiment harcelée, tu vois, et ça continue même quand elle est sur le toit.
Et donc, cette mécanique, elle va servir tout au long du jeu. On va revenir sur nos décisions. Et puis, évidemment, jusqu'au fameux choix final qui est finalement. Quand, une fois qu'on l'a fait, on se rend compte que tout le jeu a été construit pour nous amener à ce choix-là, puisque, comme tu le disais, Exerve, on va devoir choisir entre sauver Chloé, c'est-à-dire capitaliser sur tout ce qu'on a fait jusqu'ici, ou alors revenir au moment clé, c'est-à-dire quand on a sauvé Chloé à la base dans les toilettes, et ne pas empêcher le meurtre d'arriver, et finalement ne pas utiliser notre pouvoir, puisque c'est ce pouvoir qui aurait créé la tornade. Messieurs, vous avez choisi quoi ?
Moi, j'ai sauvé Chloé.
J'ai sauvé Arcadia Bay.
Moi, j'ai aussi sauvé Chloé, effectivement. Pourquoi t'as fait ce choix, toi, Maxime ?
Hein ? Pourquoi ?
Non, mais alors...
Plusieurs raisons. Chloé, il y a quelques moments, elle m'avait un petit peu saoulé. Mmh. Donc, bon, ça, ce qui ne suffit pas à mériter la mort. Mais il y a eu ce détachement un petit peu. Tu vois, il n'y a pas eu cette évidence, en fait, de vouloir sauver Chloé. Comme quoi, c'était... on en reparlera plus tard, mais on peut tout à fait l'avoir comme un amour, une relation romantique. Et moi, j'ai pas vraiment eu cette relation à elle, parce que le jeu te permet de passer un petit peu à côté de ça. Mmh. Et l'autre raison, bah, c'est comme tu as dit, en fait, c'est les pouvoirs de Max qui sont la source de l'internet. Et c'est même Chloé qui te dit, qui se rend compte, elle aussi, elle te dit, bah, il y a ma mère dans cette ville, elle mérite pas de mourir, il y a pas que sa mère, il y a plein d'autres gens, bah, Kate dont on parlait, enfin, tous les gens d'Arcadia Bay.
Tout à fait.
Et rien ne te dit que, bah, dans une semaine, il y aura pas une autre tornade parce que les grands anciens ne sont pas satisfaits et veulent réparation. Et bah, c'est ça, en fait, c'est un peu la volonté de Chloé, c'est le fait que tes pouvoirs sont à la base de ça, donc il y a un peu... c'est ça, moi, qui m'a poussé.
Et toi, Excel, pourquoi t'as sauvé Chloé ?
Bah, moi aussi, elle me gonflait un peu, Chloé. Il y a des moments où c'est vraiment une peste, elle se comporte de manière un peu chelou des fois, mais par contre, j'ai fait l'inverse, j'ai essayé justement de voir jusqu'où ils allaient aller dans le côté relation qu'on peut construire avec Chloé. Je me suis vraiment attaché, finalement, en fait, pas moi, mais Max, elle s'était vraiment attachée à Chloé, et je veux dire, elle sacrifie toute sa vie pour la sauver, elle. Je veux dire, depuis le début du jeu, c'est ça. Et donc, dans ma tête, je voyais pas comment ce personnage pouvait juste à la dernière seconde finalement shift et se dire bon bah en fait finalement elle a renoncé à sa carrière de photographe pro alors qu'elle était à Los Angeles ou à Seattle je sais plus pour une où il y avait sa belle photo là son selfie de dos qui était exposé elle a remonté le temps des années en arrière pour sauver son père puis finalement le laisser mourir enfin du coup il s'est passé tellement de trucs je me voyais pas simplement en fait je m'étais trop attaché finalement je pense à Chloé et pas assez au reste de la ville tu vois en me disant bon bah il y a des abris anti-atomiques, enfin je veux dire, voilà, shit happens quoi, vous voyez, toi, c'est un peu... Non mais j'avais vraiment pas envie de les séparer toutes les deux et je voulais voir surtout ce que le jeu allait nous donner en termes de morale et c'était un peu décevant parce que finalement cette fin là est beaucoup moins travaillée que l'autre.
Et ben, je suis tout à fait d'accord parce que c'est vrai que moi j'ai aussi sauvé Chloé mais en fait a posteriori je me rends compte que cette fin déjà, enfin moi je la trouve assez, la fin où tu sauves Chloé je la trouve assez peu réussie finalement en termes d'arc narratif par rapport à Maxine parce que tu te dis bah finalement qu'est-ce qu'elle apprend et c'est ça que le jeu veut t'apprendre, c'est que tu ne peux pas tout réparer, que tu ne peux pas empêcher tout, qu'à un moment il faut accepter ce qui se passe autour de toi, et finalement le fait de sauver Chloé, déjà ça va à l'encontre de la volonté de Chloé, donc il n'y a pas ce côté empathie qu'elle a toujours eu Maxine, où elle veut toujours quand même essayer de comprendre les autres et respecter leurs choix. D'ailleurs quand Chloé est handicapée, bah, elle te demande de la tuer et bah, t'es peut-être plus enclin à le faire, à respecter son choix.
Tu peux refuser
totalement, mais c'est vrai que bon, moi j'avais à respecter son choix, et c'est vrai qu'après bah, je ne l'ai pas respecté, et en plus je me suis dit... Ça crée, il y a un problème donc déjà sur l'arc narratif du personnage parce que je comprends pas finalement Maxine dans sa personnalité. Oui, elle peut être attachée à Chloé, mais je pense que c'est plus logique en fait pour elle en termes de personnage et d'évolution et de morale de ce que les gens qui ont fait le jeu veulent raconter, parce que c'est ça qu'ils disent, je crois, j'avais lu des interviews, c'est vraiment ça qu'ils veulent raconter, que t'apprends de tes erreurs, et apprendre de ses erreurs c'est se dire bon bah je peux pas sauver Chloé et finalement c'est le reste qu'il faut sauver. Et surtout ce qui m'a déçu aussi dans cette deuxième fin, c'est comme tu dis, elle est beaucoup moins travaillée, et c'est la première fois où le jeu ne te montre pas les conséquences sur long terme finalement de tes actions. C'est-à-dire que si tu sauves Arcadia, d'ailleurs si tu choisis de ne pas sauver Chloé dans les toilettes, tu te rends compte de tout ce qui se passe, c'est-à-dire que bah, finalement Mr. Jefferson il va être démasqué, Nathan il va aller en taule ou je sais pas ce qui va lui arriver.
Tu assistes même à l'enterrement de Chloé.
Donc tu te rends compte,
voilà, qui sont là,
tu te rends compte de ce qui est conclu dans l'histoire et tu te dis OK bah c'est ça les conséquences et je vais souffrir du deuil de cette meuf, mais voilà, ça construit quelque chose. Par contre, tu te dis qu'est-ce qui arrive après une fois qu'il y a plus que Max et Chloé, je veux dire déjà comment Maxine va faire pour vivre avec les images de tous ces morts dans sa tête, parce que bon, enfin, comment tu fais après pour vivre avec ce choix-là, comment une relation peut se construire quand il y en a une qui a décidé de te sauver en sacrifiant, je sais pas, des centaines et des centaines de personnes.
Ouais, c'est ça, c'est que ça met une pression énorme sur Chloé, tu vois. Enfin, je veux dire, si les deux finalement elles sont pas amoureuses, ou qu'elles décident peut-être de se séparer après quelques années, ou j'en sais rien, elle aura quand même détruit une ville pour elle.
Ouais, c'est ça.
Et t'es là, bon, bah, c'est un peu vénère, quoi, tu vois, c'est un peu. Hélène de Troie qui se fait sauver et du coup elle déclenche une guerre de 40 ans quoi. Enfin, c'est vraiment ce genre de pression qu'on met sur l'autre compagnon. Je trouve que ça aurait été un truc qui aurait été intéressant à explorer et peut-être plus qu'une cinématique de 30 secondes. J'aurais préféré, tu vois, une espèce de petit montage pour qu'on imagine voir ce qui se passait plutôt que simplement cette cinématique où on les voit s'éloigner. Tu vois, genre Max qui est là, deg dans sa voiture, genre oh là là, tous ces gens qui sont morts.
Et
bon, finalement, Chloé là.
On est ensemble donc ça va. Ouais, c'est vrai que tu sens qu'il désamorce et tu. Enfin, pour moi, c'est vrai que je vais pas dire quelle fin est canon, mais c'est vrai que j'ai du mal à voir les développeurs vraiment valider ce truc là et j'ai l'impression qu'ils désamorcent un peu, disant bon bah voilà, c'est bon, elle est sauvée et débrouillez-vous après, on sait pas ce qui se passe. Et c'est pour ça que ça me renvoie à The Last of Us. Alors je vais pas spoiler la fin de The Last of Us, mais c'est vrai que du coup, c'est ça qui est intéressant avec The Last of Us 2, parce qu'on va se dire comment ce choix là il va pouvoir exister dans et comment il va être traité dans le second jeu, parce que là t'as pas le choix finalement.
Et j'aurais presque aimé en fait un traitement similaire dans Life is Strange. J'aurais bien aimé finalement qu'à la fin le jeu nous supprime la possibilité du choix, c'est-à-dire qu'on a eu le choix tout au long du jeu et là maintenant en fait ben ils auraient venu nous forcer à dire bah là écoute Max t'as pas le choix, il faut absolument que tu laisses Nathan tuer Chloé parce que c'est vraiment que ça qui va réussir à le faire. Et le fait qu'ils nous laissent le choix, ça te donne la possibilité.
Ils vont au bout de leur proposition. Oui, en même temps, ils ont pas le choix. Mais ils ont pas le choix de nous laisser.
C'est juste qu'ils vont au bout de leur proposition, mais pas complètement. C'est-à-dire qu'ils y vont. Si tu choisis la fin que eux ils avaient prévu, bah là dans ce cas-là t'as une espèce de petite reward.
Dans la réalisation tu comprends.
Et finalement si tu fais l'autre choix parce que tu dis bah pourquoi pas, après tout tiens c'est marrant. Et si, tu vois, je veux dire, c'est ça la proposition du jeu. D'ailleurs, enfin, je sais pas si on l'avait encore dit, mais on l'avait noté, le jeu au départ, il s'appelait What If, tu vois, c'est et si, qu'est-ce qui se serait passé si, tu vois. C'est le jeu des si dans les bouteilles et tout ça, là. Et qu'est-ce que j'allais dire. Donc, ils ont pas fait, en fait, cette proposition-là, ils n'ont pas assez poussé. Donc, moi, je suis quand même un peu resté sur ma faim, quoi.
C'est tout le problème, en fait, des jeux narratifs à choix. Comme j'avais dit, moi, il y a certains moments où j'aurais pu me rapprocher de Chloé et je l'ai pas fait. Il y a un moment où tu dois choisir entre être d'accord avec elle ou avec David son beau-père, et moi à ce moment-là j'avais décidé de me rapprocher du beau-père en me disant bon il y a des choses à creuser chez lui, tu vois, j'essaie de me le mettre un peu dans la poche pour voir. Et en fait Chloé elle le prend mal, elle se distancie de toi, et c'est vrai qu'à l'encontre d'un Last of Us où là vraiment tout est écrit et prédéfini en ce qui concerne la relation entre Joël et Ellie, et du coup le choix de fin, que tu sois d'accord ou pas, c'est tu comprends pourquoi il est fait et c'est évident.
Attention,
on
se paye pas.
Mais non,
je surveille.
Mais tu comprends pourquoi il est fait, alors que là, bah, on te laisse le choix jusqu'au bout. Et forcément, comme t'as eu plusieurs fois le choix de ta vision de la relation avec Chloé, bah, il te laisse à chaque fois une possibilité de te distancier, de ne pas avoir une relation à 100%. Mais du coup, comme tu peux sauver Arcadia quand tu sacrifies Chloé, bah le truc c'est qu'il n'y a pas Chloé qui est développée, il y a aussi les autres personnages, comme je disais, moi je pensais à Cage, je pensais à la mère de Chloé, et le fait qu'ils aient développé un
Warren,
petit peu...
Warren, hein, on n'a pas parlé de Warren, le
un
beau...
Peu,
on
va parler, et Transformers, Batman, Hulk...
ah oui, bah, je pense que ça aussi il va falloir qu'on en parle, effectivement.
Mais oui, comme ils ont développé d'autres personnages autour, bah du coup, ils te laissent vraiment la possibilité de te distancer de Chloé, donc ce sera jamais à fond, à 100% supporté par le jeu, mais ça c'est propre au jeu narratif où t'as le choix, donc c'est
oui. Et puis t'as toujours cette grande problématique pour moi de construire des personnages en laissant une partie de leur personnalité être dictée par quelqu'un, parce que tu construis pas vraiment des personnages, tu construis des bases de personnages, tu construis un petit socle. Et c'est vrai que tu vois, bah on en discutait un petit peu en préparant l'épisode, au début Maxine elle nous est présentée comme quelqu'un qui est très timide, où elle, tu sais, il y a vraiment cette scène d'intro où elle met ses écouteurs qui est d'ailleurs assez forte, qui permettent de bien rentrer dans l'ambiance du jeu, et tu comprends qu'elle, voilà, qu'elle regarde le monde un petit peu de loin comme ça, mais après elle va pouvoir faire des choix qui peuvent être difficiles à voir comme cohérents avec, tu vois, par exemple le fait d'appuyer ou non sur la gâchette. Il y a un moment, il y a une espèce de scène contre le mec Frank là, le dealer de dope du Tiekar, qui en fait elle a un flingue dans les mains, qui est un flingue que Chloé a volé à son beau-père, et en fait on te demande de choisir d'appuyer sur la gâchette ou de ne pas appuyer sur la gâchette, et en fait tu te dis c'est très compliqué de faire ce choix, parce que moi, en considérant ce que je connaissais de Maxine, je la voyais absolument pas appuyer sur la gâchette, tu vois. Je me disais pas, c'est pas possible qu'elle appuie sur la gâchette. Et d'ailleurs, bah, si t'appuies sur la gâchette, tu le tues même pas, puisque il n'est pas chargé.
Et même avant ça, tu t'es au Two Whales Diner, là où travaille la mère de Chloé, et tu peux vraiment te balader et parler à des inconnus que t'as jamais vu, même des gens qui ont l'air un peu, t'as un mec qui gueule dans la rue, tu peux aller lui parler, alors que juste avant, on te présente Maxine comme une fille hyper timide qui pense au regard des autres. C'est un peu bizarre.
Oui, parce qu'elle a ce côté vraiment d'introspection où elle vit vit dans son monde, elle prend des photos, donc c'est vraiment la construction du personnage, elle est assez, on va dire, convenue dans l'idée d'une adolescente qui est plutôt dans le monde de la photo et dans sa création plutôt que dans un truc social, surtout qu'elle est très vite mise en opposition avec Victoria, qui est la fille un peu, tu vois, c'est la fille populaire, ouais, c'est la fille, elle ose, tu vois, elle n'hésite pas à flirter avec les profs pour essayer de gagner leur faveur, etc., etc. Donc tu sens vraiment qu'une opposition entre les deux, et en fait Max, au fur et à mesure que ses pouvoirs vont se développer, ça devient super Max, quoi. C'est vraiment genre une version d'elle-même qui est super confiante, elle a peur de rien parce qu'elle peut remonter dans le temps,
mais encore ça, je trouve que c'est plutôt réussi, c'est peut-être un grand mot, mais il y a une évolution du personnage que je trouve cohérente, justement avec ses pouvoirs elle s'affirme, justement elle est confrontée à des choix, elle a la confiance d'en faire un ou l'autre puisqu'elle peut revenir en arrière, et puis il y a des moments comme avec Kate où là elle n'a même plus ses pouvoirs, elle arrive à la sauver, et je trouve que dans l'écriture de Max, dans le fameux thème du passage à l'âge adulte, je trouve qu'il marche plutôt bien dans l'ensemble, mais on est toujours comme on le disait, parfois il y a des choix qu'on va faire pour elle et c'est pas toujours à 100% réussi.
Ouais, puis ce qui est intéressant aussi, c'est que l'autre opposition que moi je vois avec Max, c'est Chloé. Chloé, c'est vraiment, tu sais, elle est pas du tout studieuse, elle est plus à l'école, c'est vraiment la rebelle qui a un look très très marqué, elle fume des grosses d'air dans sa chambre, et ce qui est assez marrant, c'est que non seulement on apprend que c'est Chloé un petit peu qui lui a donné les pouvoirs, mais je trouve que c'est leur relation finalement qui va aussi permettre à Max de grandir, puisqu'elles vont un peu s'influencer l'une l'autre, elles vont un petit peu se temporiser. Maxine va avoir quand même une influence assez positive quand même sur Chloé. Moi je me souviens qu'au passage avec le deuxième passage avec Franck, où il faut négocier la petite liste de ses clients, tu sais, elle essaie de dire vas-y, essaie d'être diplomate. Enfin, moi j'avais plus le flingue et du coup je disais essaie d'être diplomate et tout, et finalement tu sentais que Chloé avait compris la leçon et essayait plutôt à la jouer façon Maxine. Et à l'inverse, Maxine parfois elle va avoir un petit peu, elle va s'inspirer du courage un petit peu de Chloé, parfois de sa bêtise aussi un petit peu, mais ça va lui permettre de faire des choses. Donc c'est vrai que cette relation participe aussi à la faire grandir.
C'est vraiment le cœur du jeu, de toute façon, la relation entre les deux. Pour moi, c'est vraiment pour ça, en fait, que j'ai finalement passé un relativement bon moment, parce que cet échange comme ça, de revenir dans sa ville d'origine et de recroiser quelqu'un qui a eu un chemin de vie tellement différent du tien, c'est vraiment bien amené et c'est bien construit tout au long du jeu, parce que comme tu dis, voilà, il y a des échanges, il y a des moments, elle va se comporter comme une peste, des moments non, et comme c'est des ados, en fait, elles sont toujours en train de se rechercher, tu vois. Donc autant, Chloé, tu sens qu'elle a quand même pris une direction très particulière dans sa vie, autant Max, tu sens qu'elle, elle est toujours en quête de qui elle est, ce qu'elle peut faire, qu'est-ce qu'elle a le droit de faire, et finalement c'est un peu ça le jeu, puisque du coup comme elle peut contrôler le temps, elle est en train d'essayer de s'affirmer, de découvrir ce qu'elle a envie de faire ou pas.
Même si moi au-delà de Chloé, enfin je le répète, mais j'avais bien aimé quand même aussi la relation aux différents personnages, et là il citait Twin Peaks en référence, on aura aussi l'occasion d'en reparler.
Oui, c'est vrai, il faut je pense qu'on peut même en parler.
Cette notion de communauté en fait, que tu crois, où les gens pensent se connaître, et en fait il y a un événement extérieur qui fait que certains masques vont tomber, où on va apprendre à mieux les connaître tout simplement. C'est aussi une technique narrative où ils disaient ils vont présenter des gens de façon très unidimensionnelle, comme David, le beau-père de Chloé, on disait il est vraiment présenté comme un gros connard qui a vraiment qui est hyper autoritaire, hyper parano,
et installer des caméras pour surveiller sa femme et sa belle-fille,
à la fin on voit que c'est peut-être pas si simple que ça, même si évidemment ça n'excuse pas tout, ça reste un peu un connard sur les bords, mais ou Victoria comme tu disais,
Victoria,
et il y a des persos qui se complexifient un petit peu avec le temps si on essaie de les connaître, même si c'est pas non plus hyper poussé, mais ça suffit à en rendre certains attachants ou
même
surprenants.
Nathan, dans une certaine mesure, je sais pas si vous vous souvenez, il y a dernier message,
un peu la rédemption du dernier moment.
Quand Nathan se rend compte qu'en fait il avait été manipulé depuis le début, parce que c'est un gamin, tu vois, moi je l'ai bien aimé ce personnage là parce que c'est un fils de riche, donc il a, tu vois, il est né avec une cuillère en argent dans la bouche, on lui a jamais dit non, il le dit régulièrement, c'est vraiment un enfant roi qui s'est jamais pris.
Quoique, tu vois, la relation avec son père, tu sens que derrière il a cette espèce de pression en fait de reprendre les clés de la ville, et il a cette pression là.
Mais justement, c'est ça que j'ai trouvé cool dans ce personnage, c'est que tu vois, tu te dis, je veux dire, il avait toutes les clés pour réussir dans la vie, pourquoi il est pas heureux alors qu'il est pété de thunes, il peut s'acheter, il peut se créer une dark room avec des appareils photo incroyables, et son père il lui signe le chèque, tu vois. Mais son père le déteste, etc. Donc c'est quand même des personnages où, comme en plus c'est des ados, moi je trouve ça plus... j'arrive plus facilement à croire à ce genre de transformation et de changement un peu spontané, parce qu'ils sont encore en construction. Et j'ai trouvé que ça marchait bien, et c'est pour ça que par exemple à la fin du jeu j'ai réussi à faire en sorte que Victoria soit ma copine, et j'étais super content parce que je la trouvais cool en fait. Tu vois, elle avait sous son armure, elle essaye de se la péter, à se la raconter, et tu sens que tu peux gratter un petit peu, il y a quelque chose derrière, et ça marche bien, ce côté justement où ils sont pas si unidimensionnels que ça finalement. Ah,
c'est marrant parce que moi avec Victoria à ce moment-là, donc j'ai essayé de la convaincre de devenir ma pote, et ça commençait bien, elles se disent ouais bah finalement peut-être qu'on n'est pas destiné à être ennemis, peut-être même voilà t'as ta place ici au Vortex Club aussi et tout, et j'essaie de lui dire ouais mais il y a Mr. Jefferson, attention il est un danger, et elle est repassée en mode peste totale parce que bah peut-être je l'avais pris en photo, ça lui a pas plu ou je sais pas, et en fait j'ai eu l'impression vraiment de voir tu sais un personnage un peu schizophrène. C'est-à-dire que d'un côté j'avais l'impression que dans cette conversation là j'allais dans le bon sens avec elle, mais j'ai l'impression que le jeu m'a fait attention, t'avais fait des choix avant, donc là l'écriture du personnage, et c'est vrai que bah tu vois sur certaines constructions ça marche bien, et d'autres à ce moment-là tu vois tu sens le poids de la structure narrative et de cette contrainte qui est de faire des choix et de laisser les personnages avoir, tu peux avoir des relations très différentes, bah là c'est vrai que ça m'a un peu sauté aux yeux à ce moment-là, mais encore une fois moi je le dis, je l'avais déjà dit dans d'autres épisodes, moi je trouve que c'est très 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 compliqué cet exercice d'écriture, et vraiment c'est vraiment trouver le juste équilibre, je pense que c'est un vrai défi.
Oui, avec que ce soit Détroit ou Firewatch, on a plus que ça. On disait que dans Firewatch, les personnages étaient beaucoup préécrits et que nos choix étaient quand même confinés à une certaine direction. Détroit, c'est plutôt l'inverse.
C'était
des personnages bah, du coup, qui étaient des coquilles vides puisqu'on était censé pouvoir tout faire avec eux, ou en tout cas des décisions diamétralement opposées.
Ouais.
Et là, avec Life is Strange, bah, on est encore un peu entre les deux, tu vois, où d'un côté, comme on le disait, Max, elle est préécrite, elle a sa personnalité de départ, elle a son évolution qui est prévue et sa relation avec Chloé, mais bah, cette relation avec Chloé, on va pouvoir décider de l'intensité et même de l'interprétation parfois.
Ouais, totalement. Ouais.
Et de est-ce que c'est une relation amoureuse ou amicale ? Bah, t'as un peu les deux qui sont permis, mais c'est jamais l'extrême l'un ou l'autre. Le jeu surfe un petit peu sur une ligne un petit peu assez fine.
Oui, il essaie de laisser la place à beaucoup de choses, et c'est d'ailleurs vrai aussi, même pour, bah, je sais pas, la relation avec Chloé, c'est vrai qu'il y a beaucoup de. On peut la voir comme une relation amoureuse ou on peut la voir vraiment comme une relation juste entre deux copines, et il laisse cette place-là, voilà, il laisse ce flou pour que justement tu puisses bah, choisir toi.
Et ils vont pas jusqu'au bout non plus, parce qu'elles se disent je t'aime plusieurs fois, mais c'est, tu vois, c'est pas présenté comme une vraie tu vois, une vraie rupture entre on est les meilleurs amis et finalement en fait on veut être ensemble.
Ouais.
Et il y a une certaine frustration parce que quand tu essayes de poursuivre cette idée là bah, le jeu en fait te permet pas d'aller jusqu'au bout, mais c'est vrai que c'est ça qui est compliqué, c'est de se dire ben eux en termes d'écriture à un moment donné ils sont limités parce que ben ils sont limités par le nombre de choix qu'ils peuvent faire. Je vais juste faire un parallèle, si vous avez Netflix je vous invite à essayer de faire le Black Mirror Bandersnatch qui s'intéresse justement à cette idée de choix et de possibilités, et qui s'intéresse justement à la limite de ce qu'on peut créer, et du coup moi ça m'a, quand j'ai rejoué au jeu ça m'a fait penser à ce truc de Black Mirror parce que moi je l'ai fait très récemment à Life is Strange, je l'avais pas fait à l'époque, et justement tu te dis ben oui ils sont limités, mais dans ce qu'ils ont réussi à faire dans le temps qui leur était imparti, parce qu'il faut aussi se rappeler qu'ils avaient un contexte de production qui était très court en termes de temps, je trouve qu'ils ont quand même réussi à aller assez loin, et pour y arriver ben ils ont dû par contre aller piquer les idées à droite à gauche, et c'est assez moi ça m'a beaucoup fait rire parce que les références elles sont constantes quoi. On a commencé à en parler vite fait avec Twin Peaks, mais le jeu est bourré de références, voire de scènes ou de mise en scène ou d'idées qui ont été reprises d'autres œuvres.
Bah, déjà il y a deux gros canevas on va dire qui sont Twin Peaks et l'effet papillon, voilà, où là vraiment la structure du jeu, l'ambiance qu'ils arrivent à faire, vraiment bon là c'est très référencé, enfin même l'effet papillon, alors moi je l'ai pas vu, mais bon la mécanique elle utilise des photos, je crois que dans l'effet papillon c'est du texte, c'est ça. Même il y a une vidéo à la fin, un truc comme
ça. À la fin il y a une vidéo dans la Director's Cut, je sais pas si c'est dans la version, mais oui il y a toujours cette notion de, c'est même des enjeux, tu vois, il y a des moments où Max elle doit retrouver des photos de tel moment ou
pour
en
pouvoir
tout cas,
retourner
pour s'échapper de la Dark Room ou pour pouvoir retourner un événement particulier, et t'as exactement ce même genre d'enjeu dans l'effet papillon où il doit retrouver les textes qu'il écrivait dans un journal.
Puis le traitement temporel est le même, parce que du coup bon, je fais ma mini parenthèse, le traitement temporel dans les œuvres de fiction, donc puisqu'on peut le traiter de deux manières en fait, hein, le temps c'est soit une ligne, tu vois, c'est un truc rectiligne et tu ne fais que remonter, c'est elle ce qu'elle fait, hein, le rewind, elle remonte, vous imaginez un rail, vous remontez plus loin, plus ou moins en amont dans le rail, ou vous avez le traitement retour vers le futur, où quand vous remontez dans le passé, vous allez créer des réalités parallèle. Et du coup, à chaque fois qu'on fait un changement, on va créer des embranchements et des milliers de ramifications de nos conséquences.
Le traitement Dragon Ball, il me semble d'ailleurs.
Il remonte dans le temps, dans Dragon Ball.
Ouais, bah tu sais, tu as un Trunks du futur.
Ah oui, quand Trunks il revient dans le.
Tu sais, moi j'étais petit, c'est à ce moment que j'ai vu.
Spoiler Dragon Ball.
Ouais, c'est vrai, spoiler Dragon Ball. Mais quand il tue, quand les cyborgs sont morts, tu vois, t'as toujours le Trunks du futur et son monde il a pas changé en fait.
Putain, alors en plus, c'est le meilleur. J'adore, tu sais, Sangwen, il est trop badass avec son bras qui monte et tout là. C'était Kiro. Non, mais effectivement, Dragon Ball, très bonne référence.
C'est voilà. Des univers parallèles.
Et donc, bah, l'effet papillon avait ce même traitement-là de dire que tu ne fais que remonter le temps, t'es ouais, sur une ligne,
pas le même,
t'es bloqué.
Juste pour être sûr, Dragon Ball, c'est des univers parallèles aussi.
Oui, oui. Non, je parlais de l'effet même... papillon.
Ah,
le même
pardon,
traitement
ah oui,
que
on
dans
est en train de se perdre dans le ouais, temps, mes amis.
Oui, mais c'est parce que c'est compliqué. C'est justement ouais. Ça qui est complexe quand tu joues avec le temps. Et ce que je trouve intéressant dans ce traitement-là, c'est que du coup, ils peuvent créer des ellipses qui ne sont plus dans notre contrôle. C'est-à-dire que quand Max, ça va remonter dans le moment où William, le père de Chloé, meurt, d'un coup, tu vois, il y a une espèce d'ellipse qui fait que, et qui est racontée par des petites photos, qui est d'ailleurs la même mise en scène que dans l'effet papillon, le film. Et
pour t'expliquer
ce qui s'est passé, tu vois des photos qui brûlent et qui deviennent d'autres photos et d'autres clichés. Mais tu n'as pas le contrôle sur ce qui s'est passé et c'est assez étrange parce que tu te dis en fait il s'est passé 5 ou 6 ans, elle s'en souvient d'un coup, mais elle a aucun contrôle sur ce qui s'est passé et elle se retrouve quand même dans la même situation, elle est à nouveau à Arcadia, etc.
Alors ça aurait pu changer 1000 choses dans
ça aurait été intéressant de se dire finalement tu vois elle est à Paris ou j'en sais rien, tu vois, ça aurait été complètement improbable comme jeu. Mais bon, ils ont essayé évidemment d'avoir un traitement pas trop complexe, parce que dès que tu commences à créer des paradoxes temporels et des boucles, c'est un bordel.
T'es obligé de rester effectivement sur une route pas non plus qui part dans tous les sens pour arriver quand même à mener ton histoire et surtout aborder les thèmes qu'ils avaient envie d'aborder, parce que finalement, en discutant, toutes ces thématiques de retour dans le temps, des trucs comme ça, cette mécanique-là, c'est pas forcément ce qu'on retient de Life is Strange, j'ai l'impression. C'est plutôt... une ambiance, une atmosphère, et puis ces histoires d'adolescents, de doutes et de choses que peuvent traverser toutes ces problématiques qu'on rencontre quand on se cherche un petit peu, comme tu le disais, et c'est un petit peu ce que va vivre Maxine finalement pendant tous ces trucs-là, quoi.
En termes d'ambiance, on a parlé de la mécanique de retourner dans le temps et tout, mais on voit qu'il y a un vrai rapport au temps en fait dans le jeu et qui apporte vraiment des ambiances assez particulières. Comme on l'a dit, Max, elle a vécu plusieurs années à Seattle, elle est partie 4-5 ans, je crois, et elle revient à Arcadia Bay, il y a des choses qui sont identiques ou qui ont... Tu vois, Chloé, par exemple, elle vit dans la même maison. Et du coup, Chloé, quand Max y va, elle a vraiment des souvenirs d'enfance quand elle y va. T'as même ces moments... donc ça, ils appellent ça les Zen Sequences, où tu peux te poser sur une chaise ou un banc et tu vas avoir certains plans avec des rayons de soleil ou ils vont filmer Max d'une certaine façon. Tu vas voir la musique, elle va penser un petit peu dans sa tête. Tu vas entendre sa pensée. Et tu as une Zen Sequences dans le jardin, par exemple, de Chloé, et t'as des plans sur certains objets. T'en as un, c'est un dessin qu'elles ont fait un peu, tu vois, au coloriage... Et il a été jauni, éclairé par le soleil, tu vois, avec le temps, en fait, ce dessin s'est un petit peu effacé. T'as une tache qu'elle retrouve sur la moquette, enfin, t'as plein de petits détails comme ça, elle va les commenter, et c'est déjà une première forme, en fait, de retour dans le temps, mais avec des sentiments comme la nostalgie, la mélancolie, les regrets, qui sont des sentiments où t'as aussi le cerveau à la fois dans le passé et dans le présent.
Et ce que j'ai trouvé cool avec ces passages-là, parce que pour moi, c'est vraiment les meilleurs moments du jeu. Ouais. C'est ça qui est rigolo. C'est vraiment les moments... la scène qui m'a marqué, c'est quand elles sont allées à la piscine, faire un peu leur bain de minuit, un peu les resquilleuses, là. Elles se retrouvent dans la chambre de Chloé, et tu peux passer un certain temps, c'est le matin, c'est le réveil, tu vois, c'est vraiment un moment très particulier, t'entends les bagnoles dehors, enfin, ils ont fait un travail sur le sound design qui est vraiment bluffant à ce niveau-là. Et tu peux rester... pas mal de temps, elle discute, elle papote, tu restes avant de te dire, je me lève, je vais m'habiller, je vais faire quelque chose, et ces moments marchent très bien parce que le reste du temps, t'es toujours dans l'urgence et dans le contrôle du temps, et c'est ça qui est rigolo, c'est que ce moment-là n'aurait pas existé si, en permanence, on n'était pas en train de montrer autre chose. Si on nous avait fait un jeu, tu vois, plus lent, ça aurait été chiant, en fait. Enfin, je pense que ça aurait été des moments un peu chiants, parce qu'il nous aurait été presque tombé comme un cheveu sur la soupe, parce qu'on aurait voulu de l'action. Là, on en a, et c'est des petits moments de respiration où on peut choisir nous-mêmes le moment où on repart dans l'avalanche d'action, et c'est en fait finalement ces moments-là que je retiens le plus.
Oui, et puis ils ont vraiment, il y a un gros travail sur la photographie, sur l'atmosphère qui est fait. Il y a une vraie, le choix de la colorimétrie qu'ils ont mis pendant cette scène-là, c'est vrai qu'elle est marquante. Il y a un truc un peu cotonneux, très très chaud en fait, qui émane de ce moment-là et qui est assez marquant, qui est assez touchant. Et c'est vrai que on peut vraiment rien faire. Moi, j'étais même, tu sais, je savais que j'avais ma manette dans les mains, je me disais si j'appuie sur un truc, peut-être que ça y est, ça va se couper ce moment-là. Et j'avais envie, tu sais, de laisser le jeu respirer. Après ce moment-là, parce que c'est quand même après un moment de stress, il y a rentrer dans le truc du directeur, on va à la piscine, il y a un petit moment complicité, ensuite un petit moment où tu dois t'échapper de David qui vient te courser dans le lycée.
Sa lampe torche.
Exactement, sa lampe torche. Et c'est vrai que c'est un moment assez marquant qui est assez chouette.
C'est vrai que quand tu parlais de l'aspect cotonneux des lumières et tout, c'est un truc que j'avais vraiment ressenti en regardant Virgin Suicide, que j'ai rematé un petit peu aussi pour ça, où t'as vraiment des plans comme ça, où les premiers plans, c'est vraiment ça, c'est un quartier qui est éclairé par le soleil, et c'est un quotidien qu'on voit, c'est des chiens qui sont promenés, des enfants qui jouent au basket, et tout ça à la lumière du soleil, et c'est vraiment ce côté suspendu dans le temps.
Oui, et puis c'est, voilà, c'est de l'aube, c'est du crépuscule, tu vois, il te montre vraiment des moments de journée comme ça où il y a vraiment une lumière très particulière.
Et qu'on peut nous tous avoir découvert, tu vois, on a tous des lundis matins ou des dimanches matins où t'as envie de traîner, tu regardes juste l'heure et lumière qui passe à travers tes stores, etc. Et je me suis retrouvé tout de suite dans cette ambiance-là, et ça c'est bien parce que c'est dans des jeux vidéo, c'est finalement des moments qui sont assez rares, et je pense que c'est ça aussi, c'est ces petites touches qui régulièrement arrivent, qui ont touché un peu les joueurs, en plus des autres thématiques, parce que forcément, vu que ça se passe dans un cadre assez réaliste, avec des ados, etc., on a des sujets cool, mais ces petits moments là vraiment, moi je pense que à terme, dans quelques années, c'est vraiment de ces petits trucs là où je me souviendrai, avec la petite musique qui passe, etc.
Ouais, moi j'étais content de trouver une chaise ou un banc, et je me suis dit, tiens, c'est, je vais pouvoir me poser, voir un petit peu les différents plans que le jeu va pouvoir m'offrir, les pensées de Max, qu'elle pense à ce moment là non, c'était vraiment des moments,
et elle aussi elle les apprécie, c'est ça qui est rigolo, c'est que le personnage apprécie ce moment là elle en a besoin, tu vois, elle en a besoin de se retrouver un peu toute seule, de souffler, de bon, alors, je réfléchis, qu'est-ce que je vais faire? Allez, on y retourne. Et ça, vraiment, c'est très réussi. Et c'est pas forcément évident, parce que c'est des moments où finalement on est passif, qui sont finalement ceux qu'on choisit de maintenir. Et tu vois, c'est assez complexe, c'est assez subtil à mettre en place. Ils ont vraiment bien réussi à ce niveau-là.
Moi, le moment aussi où ils ont bien réussi à me remettre dans l'ambiance, c'est quand il y a la soirée au Vortex Club. Ouais. Ça m'a vraiment rappelé l'espèce de soirée qu'on faisait, tu sais, les soirées étudiantes, les trucs comme ça, où j'étais jamais vraiment à l'aise. Et du coup, je me suis vraiment senti comme Maxine dans cette scène où elle est un petit peu comme ça, elle est un petit peu perdue autour de tout ce monde, ils sont là, il y en a des meufs, elles sont en maillot de bain à danser sur les trucs, sur les jukebox, tu vois, qui balancent la sono, t'en as, ils sont dans la piscine et tout, donc c'est des choses, ça m'a ramené un peu à des soirées que j'aimais pas trop, et du coup je me suis vraiment senti ancré dans le jeu à ce moment-là, tu vois.
Un petit détail tout bête, mais qui participe vraiment à cet ancrage, c'est vraiment la musique, ils ont mis de la vraie musique, en fait, ça paraît con comme ça, et ce que j'appelle par vraie musique, c'est genre pas de la musique prétexte où ça vient de l'album fond sonore, piste 1, boîte de nuit, tu vois, tu sens qu'il y a eu un petit travail sur la musique qui évolue en fonction de si t'es à l'extérieur, dans l'entrée, et ensuite tu y vas, et comme je disais, un truc, c'est pas méprisant ou quoi, quand je dis vraie musique, c'est une musique que tu pourrais vraiment entendre, en fait, en boîte ou à une soirée étudiante, et je sais même pas pourquoi j'ai remarqué, je pense que c'est parce que la plupart des jeux, ils te mettent une fausse musique prétexte qui fait un peu fond sonore.
C'est que souvent, ils utilisent, tu vois, le truc, ils vont faire un random sur le site, il y a marqué technohouse.wave, et c'est souvent ça, moi, tu vois, j'ai l'exemple de Hitman, qui te, le premier épisode de Hitman de 2016 ou 17, je sais plus, tu dois infiltrer une comment ça s'appelle, un truc Paris, de top model à Paris, la musique, mais c'est vraiment, tu vois, exactement l'exemple que tu dis, c'est vraiment random techno house à la con, alors que là, du coup, c'est de la musique électro, mais que des gamins pourraient être en train d'écouter dans une soirée, donc c'est vrai que ça fonctionne bien. De toute façon, tout le travail sonore, je pense que la composition, le choix des musiques, il y a beaucoup de musique avec des paroles ou qui sont des vraies musiques, tu vois, les musiques de cinémateurs, etc., c'est relativement rare, et ça permet vraiment d'ancrer le jeu. Je trouve que c'est le côté, parce que le jeu est un pot pourri de références, et c'est ça que j'ai préféré, parce que bon, toutes les 5 minutes la plaque de voiture de Chloé, c'est TWN PKS, tu vois, c'est Twin Peaks. Warren, il arrête pas de nous dire que
vraiment insupportable,
c'est vraiment l'honneur de le geek là, il est là, oh là là, t'as vu tel film, t'as vu tel truc,
et autant tu pourrais dire c'est sa personnalité, mais Max, elle rentre aussi dedans, et c'est du name dropping constant, c'est un peu agressant.
Ouais, c'est ça, il montre des refs pour dire on fait des refs, quoi.
C'est limite, c'est un peu racoleur à ce niveau-là, j'ai l'impression que, enfin, est-ce que les jeunes parlent vraiment comme ça, je suis pas certain, tu vois.
Je pense qu'ils ont un peu freiné quand même, peut-être au bout de 2-3 épisodes,
c'est,
on l'aura peut-être dit,
tu as probablement raison, j'ai pas fait assez attention,
ça
mais
ça
c'est
m'a
vrai
saoulé
que
au début,
les premiers, après, c'est vraiment n'importe quoi, le passage quand ils sont dans le parking, là, ils s'en balancent, ils font Yu-Gi-Oh, tu vois, genre attaque, défense, moi c'est ma référence, un truc comme ça, quoi.
En plus, il lui a filé un disque dur avec des 10 bits dessus, t'es là, bon, c'est ce qu'on faisait dans les années 2000, tu vois.
Dans les mails que tu lis, à un moment, il dit, ah ouais, je connaissais pas tel film, et du coup Warren, j'ai dû brandir mon exemplaire de Battle Royale pour le convaincre que moi aussi
que j'étais une vraie geek,
enfin c'est un peu ça, tu vois.
Ouais, et puis ça balance non-stop, il parle d'Akira, parce de Ghost in the Shell, il balance vraiment plein de références, genre regardez,
sans avoir de discussion dessus, c'est ça le truc. Moi, je veux bien qu'ils aient vu Akira la veille, qu'ils en parlent pendant 5 minutes, mais non, c'est juste, on va citer Akira pour citer Akira, tu vois. Je sais même plus s'ils le citent vraiment, mais en tout cas
non, tu crois que c'est dans un mail ou dans un SMS ou
c'est juste les noms, tu vois.
Parce que Warren, il est trop cool, tu vois, il a Akira, il a des bons goûts, quoi, tu vois, c'est genre... alors, mais en même temps, c'est rigolo, parce que ça fait très adolescent comme discussion, tu vois, c'est vraiment le côté, on essaye de retrouver sa communauté.
Ouais, mais est-ce qu'il vraiment, c'est ça, être, tu vois, quand t'as vu un film, est-ce que t'en cites 9 autres à côté sans rien dire d'autre derrière, tu vois, après, je m'attends pas à ce qu'ils discutent de ce que ça signifie pour eux, de ce que... Mais tu vois, quand t'as une vraie discussion, tu dis pas juste tel nom, puis un autre, puis un autre, puis un autre.
J'ai assisté à des discussions autour de jeux vidéo où c'est juste, tu balances des noms de jeux, tu vois, les gens, ils sont... Tu commences, t'arrives dans une salle, tu vois, tu brandis ton verre et tu parles de JRPG, et t'as les gens, ils vont balancer des noms, tu vois, ils vont ouais, Xenogears, Final Fantasy, Grandia, machin, tu vois, ils vont juste balancer des noms et ils vont rien dire hein, dessus, ils vont juste dire les noms, tu vois, genre, voilà, moi j'ai fait ça, tu vois, c'est les pins qui grandissent comme ça. Non, mais c'est vrai que par contre, ce côté référence est, était peut-être trop présent au début, et comme le jeu en plus est lui-même une énorme reprise de Twin Peaks slash l'effet papillon, c'était peut-être un peu trop. Par contre, dans le choix de la musique, d'insérer de la véritable musique, comme tu le disais, et pas de la musique composée exprès pour le jeu, il y en a, hein, mais il y a également plein de choix de musique qui sont sortis en vrai, en commercial, ça marchait vraiment très très bien.
Bah, ça donne un côté vraiment série, aujourd'hui c'est ce qu'on peut voir dans des séries où tu vas vraiment avoir des passages à la fin d'un épisode, bim, tu vas avoir un son que tu connais un petit peu ou des trucs comme ça, donc voilà, ils ont vraiment réussi à recréer ça. Ce qui est fort, ce dont on discutait, c'est que malgré toutes ces références, finalement le jeu quand même arrive à trouver son identité, bah déjà grâce à ces deux personnages qui sont quand même forts, Chloé et Maxine, et puis même d'autres personnages secondaires, et puis voilà, il arrive à, déjà dans le paysage du jeu vidéo, il arrive à parler de choses finalement dont on ne parle pas si souvent que ça, je veux dire le fait de passer à l'âge adulte, d'être responsable par rapport à ses choix, de comprendre aussi que parfois il y a des choses qui nous dépassent et qu'on peut pas forcément tout changer, c'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup dans le jeu vidéo. Et ce qui est intéressant, c'est que même la mécanique communique ça, parce que moi je me suis retrouvé plein de fois en fait dans des espèces de boucles de doute en fait temporelles, parce que je remettais toujours en cause mes choix, et j'ai trouvé ça, tu le disais, que ça marchait bien, et je trouve que ça renforce beaucoup ce côté adolescent, hésitation, où on se dit on ne sait pas vraiment où on veut aller, et le jeu arrive à bien retranscrire ça dans ses mécaniques, je trouve.
Et c'est surprenant, c'est que autant dans le jeu vidéo c'est pas forcément quelque chose qu'on connaît, alors pourtant dans le reste de la culture, le passage à l'âge adulte, je veux dire, les États-Unis ils nous ont inventé le concept de young littérature, tu vois, avec Harry Potter, Twilight, le truc avec qui ressemble à Battle Royale mais qui est pas Battle Royale, Hunger Games, tous ces trucs là, tu vois, ils ont on peut faire du name dropping aussi. Le concept de littérature pour les adolescents, c'est quelque chose de très connu, tu vois, les Japonais ils ont les shonen où c'est toujours des histoires de passage à l'âge adulte avec le voyage initiatique, etc., etc.
Bah, attends, donc, on a eu Hélène et les garçons, on peut parler aussi de culture française.
Hélène, bah, tu vois, même ça, moi je connais pas.
Oui,
tu vois,
bah, j'allais dire, c'est un peu vieux, je trouve.
En fait, moi je connais que parce qu'on en a parlé des extraits. Tu vois,
ouais, c'est ça, c'est ça. Il a toutes les VHS chez lui, il va pas le dire. Il a un hôtel AB Studio à la maison.
Non, par contre, moi, ma belle-mère, elle regardait les Frères Scott, Dawson, tous ces trucs-là. Je peux t'assurer que dès que j'étais chez mon père, la télé, quand elle était allumée, c'était ce genre de truc.
Les Frères Scott, ça fait partie en plus, pareil, des références qu'on peut retrouver au niveau de l'ambiance ou au niveau de certains dialogues, de choix de dialogue. C'est un truc qu'on retrouve dans Life is Strange. Mais voilà, dans le reste, le passage de. Les personnages adolescents sont toujours des personnages qui fonctionnent. Parce que bah, ça te renvoie, toi, à ta propre adolescence. Quand t'es adolescent, ça te parle. Donc en fait, n'importe quel âge que tu peux avoir, c'est souvent un personnage qui fonctionne bien, le personnage de l'adolescent, et bah, ils ont eu raison de l'utiliser, et là où ils ont été vraiment malins, c'est de réussir à parler de ces problématiques de choix, de responsabilité, et d'assumer finalement nos actes avec le voyage dans le temps. Là, le voyage dans le temps, moi je le voyais vraiment comme une espèce de grosse métaphore de comment on fait pour accepter ces idées. Tu vois, moi c'est sûr que quand j'étais ado, il y a des tonnes de situations, si j'avais pu choisir autre chose, est-ce que je l'aurais pas fait? Et finalement, bah, en vieillissant, on se dit, bah, de toute façon, tu vois, je veux dire, la vie continue, quoi. C'est pas ça.
En tout cas, moi, c'est comme ça que je.
Non, mais
tous nos choix qu'on fait, ils sont déterminés par plein de choses.
C'est du déterminisme, c'est différent. Voilà.
Mais après, toi, tu les vois pas, tu vois, les conséquences.
Non, je les vois pas, mais je les accepte parce que voilà.
Ce que je veux dire, c'est qu'il faut les accepter.
Il faut pas confondre déterminé, c'est fatalisme.
Ouais, tout à fait.
Je suis fatalisé.
Mais vous m'avez perdu là.
Tu parlais de métaphore.
Voilà, le métaphore. C'est juste que nous, ils arrivent à vraiment nous remettre dans cette idée-là que on ne peut pas tout contrôler, et ils arrivent vraiment à nous faire comprendre qu'en fait, bah si, à la fin, il faut lâcher prise, et ben le temps il avance que d'une seule manière, et il faut qu'on apprenne à vivre avec ce genre de choix-là. Du coup, le fait d'utiliser la mort de Chloé pour ça, c'est un peu violent quand même. Disons qu'en termes de leçons qu'on aurait pu apprendre à Max, il y a des trucs un peu moins vénères qu'on aurait pu lui apprendre, tu vois. Elle aurait pu avoir une mauvaise note à son contrôle
au
lieu de mourir.
Il y a qu'un bad ending, il n'y a pas de bonne fin, enfin, il n'y a pas un truc où tout va bien finalement, tout est bon dans le meilleur des mondes, puisque c'est Chloé meurt, ou alors c'est.
C'est vraiment le message qu'ils veulent transmettre. De toute façon, hein, l'idée que bah voilà, il faut accepter nos actes, et donc à la fin il faut assumer, on fait un choix et il faut l'assumer, et ça bah forcément c'est un truc central quand t'es ado, puisque bah t'es dans ta construction d'identité, t'es en train d'essayer de savoir qui t'es, et surtout bah tu vas passer à l'âge adulte, donc ça y est, c'est fini les conneries, il va falloir travailler, il va falloir remplir des fiches d'impôts, des machins, et forcément c'est des trucs chiants, mais il faut l'accepter.
une notion qu'on retrouve un peu, alors pas dans, en termes de maturité, mais le fait qu'il y ait cette espèce d'équilibre cosmique, et que dès que tu prends un truc, il faut qu'on t'en prenne un ailleurs, c'est aussi l'effet papillon, t'as aussi cette notion de... Si sauf quelqu'un, il faut que quelqu'un d'autre meure, tu vois.
Ouais, d'ailleurs, dans l'effet papillon, il y a exactement la scène où, parce qu'il a modifié le passé, il se retrouve, lui, à être handicapé.
Ouais. Donc, parce qu'une autre vraiment, personne, elle devait être un petit peu traumatisée ou quelque chose comme ça, et lui se retrouve handicapé.
C'est marrant quand même ce principe d'écriture, parce que ça, c'est totalement arbitraire, tu vois. Oui. C'est une façon de voir la vie, de dire qu'il y a une espèce de grand ordre cosmique.
Je pense que au-delà d'une façon de voir la vie, c'est une façon de terminer ton œuvre, en fait. je pense, la réalité du format. Ouais, parce que si tu faisais remonter dans le temps Woman, tu vois, bah, tu ferais une série en 20 saisons, et à chaque épisode, elle saurait un truc, ou elle reviendrait en contrôle. Mais si tu fais un bouquin ou un film, un jeu, faut que tu le termines d'une façon à l'autre, et comme disait Xer, bah ça peut être... il y a une leçon de sagesse en fait à en tirer, de dire que bah ne pas jouer avec le temps, c'est accepter les conséquences des choix qu'on fait, ça nous ramène à notre réalité. Et en plus, dans le contexte de Life is Strange, c'est que là il y a vraiment ce côté de comprendre ça, c'est mis en lien avec le fait de devenir adulte en fait, d'accepter la vie comme elle est.
Mais c'est parce que c'est toujours traité de cette manière-là en fait. Souvent le voyage dans le temps est juste un gros prétexte pour apprendre à justement assumer. Enfin, je sais pas si vous avez cette excellente série qui s'appelle Code Quantum.
Oui, je pense.
Avec Scott Bakula.
Oui.
Et qui est incroyable, tu vois, avec Ziggy et tout, qui fait. Oh bravo, tout ça. Bref, ça, on peut y aller pour le name dropping et les citations. Mais finalement, le personnage, il remonte, il incarne, il se retrouve dans la peau d'autres gens dans le passé. Ouais. Et quoi qu'il fasse, en fait, ça change pas finalement. Il va changer un peu la vie des gens. Mais lui, sa problématique principale, elle n'évolue jamais.
Parce que la vie des gens, il l'améliore quand même, la vie des gens à chaque fois.
Il l'améliore, mais sa problématique à lui, le truc un peu global, ça change pas. Ouais. Donc, on est toujours dans cette idée que même si on pouvait changer le passé, ça change pas grand chose, parce que sinon, je veux dire, je sais pas si vous souvenez, encore, allez, on y va sur les citations, tu vois, c'est Red Alert, le jeu de Command & Conquer, Alerte Rouge, je veux dire, ils remontent dans le temps, et ils se disent, bon, qu'est-ce qu'on fait, on va tuer Hitler, et comme ça, le monde, il est tranquille, sauf que finalement, en fait, c'est les Russes qui ont dominé le monde, et on se retrouve des années plus tard à...
Il y a un épisode de Sliders où, je crois, les Allemands ont gagné, enfin,
il y a toujours des trucs comme ça.
Dans le journal de Max, Mickey. Du coup, dans le journal de Max, elle dit, je me souviens de cet épisode de Star Trek, où le capitaine Kirk tue Hitler, je crois aussi, et en fait ça fait que, je sais plus, sa mère meurt ou quelque chose, enfin il y a quelque chose où il y a une répercussion sur sa vie, donc elle fait du name dropping sur le voyage dans le temps aussi. Là, c'est
mais cool. Ça montre aussi que les gens, quand ils écrivent des trucs, il y a cette espèce quand même de pot pourri de culture commune où il y a quand même une espèce d'idée, alors il y en a qui vont appeler ça karma, d'autres qui vont appeler ça la foi, la religion, des choses comme ça, que les choses arrivent pour une raison et qu'il y a justement une espèce de truc qui se décide et qui permet de créer l'équilibre. Alors on va appeler ça la force, enfin tu vois, tu peux sortir tous les trucs, je veux dire, la plupart des œuvres ont toujours une prise de position sur ça, mais qui est finalement, qui part du même pot commun.
Bah parce que c'est rassurant aussi. Hein.
Oui, c'est ça.
C'est pas une espèce de chaos.
C'est des questions qu'on se pose, alors forcément quand tu es ado, ces questions-là, elles sont encore plus présentes, puisque là, la métaphysique, le rapport à la mort, à l'âge, etc., c'est des trucs qui te traversent quand toi, tu vis ta propre adolescence, et ça fonctionne d'autant plus quand tu incarnes un personnage adolescent.
Là, ce qu'on peut éventuellement avoir quelques regrets, c'est sur le traitement de certaines problématiques. Alors, il y a des choses qui sont plutôt bien abordées. Je pense que le cyberharcèlement, tout ça, je pense que c'est plutôt bien représenté dans le jeu. C'est quelque chose qui est assez fort. Et évidemment, ce passage avec Kate, il est marquant. Après, par exemple, sur la construction de l'identité de Maxine, sur sa sexualité, par exemple, comme on le disait, le jeu reste un petit peu entre les deux. Il y a aussi ce passage avec Chloé quand elle est handicapée, qui est pas évident quand même à assumer.
C'est un peu borderline quand même.
C'est très limite. Alors ils arrivent à s'en sortir en disant que finalement elle n'est pas seulement tétraplégique, elle a aussi une maladie dégénérative qui fait que elle va elle est condamnée à mourir et elle va te demander en fait de pratiquer une euthanasie. Et ça, c'est quelque chose qu'ils voulaient aborder, mais c'est vrai que même dans une conférence ils l'ont dit, c'était pas forcément évident pour eux, parce qu'ils disaient ils voulaient pas dire être handicapé ça équivaut pas à être mort, il faut pas tuer Chloé parce qu'elle est handicapée, c'est pas le message qu'on voulait donner, mais voilà, c'est pas facile à écrire. Et ils ont voulu quand même essayer de jouer sur pas mal de choses comme ça dans tout le jeu, et ils ont évolué sur un fil assez tendu, et c'est pas forcément évident.
Pour Chloé, c'est vrai que t'as les deux extrêmes, parce que t'as d'une part, en fait c'est un cliffhanger, c'est la fin de la saison 3, boum, tu vois que Chloé est tétraplégique et ça finit comme ça, et ça peut vraiment finir sur la note, en tout cas sur le constat de dire merde, j'ai j'ai foutu la merde dans le temps, Clovel est handicapé, tu le vois comme une punition en fait de ces fameux grands architectes de la balance cosmique, parce que t'as sauvé son père du coup qui devait mourir. Et à côté de ça, après, t'as la scène où ils l'ont quand même travaillé. Il y a vraiment une relation toujours entre Chloé et Max. La scène, elle dure bien 40 minutes.
Puis elle est vraiment travaillée dans l'architecture, dans la décoration. Ils ont bien retransformé en fait la maison pour l'adapter à cette nouvelle problématique que connaissons.
Ils ont pris le temps de décrire une certaine réalité en fait, que ce soit avec les équipements, comme tu le disais, ou les problèmes financiers dans lesquels sont les parents, parce que c'est pas des gens qui roulent sur l'or, mais ils font ce qu'ils peuvent. Un autre truc qu'il disait,
c'est un petit taquet au système de santé américain au passage du
genre.
Parce que du coup les gens qui ont pas beaucoup d'argent ils croulent sous les factures.
C'est ce qu'il me fait dire, ils sont un peu en plus alors pas hypocrites, je sais pas s'ils ont conscience ou pas, mais bon, quand on dit ils, c'est les deux, parce qu'on
les deux
co-directeurs, donc Raoul Barbet et Michel Lecor.
Très bien.
Et eux ils disaient que
question pour un champion.
Ah ouais, direct.
Top Maxime, je suis le directeur de
et dans leur conférence GDC je crois, ou autre chose,
c'est une conférence.
Et ils disaient qu'en fait il n'y avait pas de political agenda dans le jeu, c'était un de leurs motos.
Ils voulaient être neutres.
C'est ça. Alors
ce qui
que,
est un bien belle, bien belle idée.
Non, tu vois, à partir du moment où tu décides de représenter le handicap d'une certaine façon, déjà quand tu décides de parler de handicap dans un jeu vidéo, c'est une forme de d'aspect politique, tu vois. Et là, ils ont décidé de représenter la réalité d'une famille qui galère, d'une Chloé qui vit. Alors, elle est pas malheureuse tout au long de sa vie, elle vit avec en tout cas, c'est vraiment sur le fil, tu vois. C'était vraiment borderline au début.
C'est un peu tire-larme au début du genre. Elle est handicapée, elles sont toutes les deux en train de discuter sur la plage, et tu dis, les gars, vous allez loin là quand même. Et bon, ils arrivent à peu près à rattraper le truc, mais voilà, tu sens que c'est un peu le funambule qui tombe et qui se rattrape, mais qui s'accroche aux branches comme ils peuvent. C'est un passage, je pense que s'ils avaient voulu juste la faire mourir, et qu'en gros c'est soit elle, soit l'autre, ça aurait été peut-être un peu trop binaire, je pense qu'ils auraient trouvé facile. Donc ils ont essayé de rendre le truc un peu plus subtil, ils s'en sortent vite fait. Moi je leur donne pas le. Voilà, on va dire, c'est quand même une petite tape sur la main, parce que vous auriez pu faire ça un peu mieux.
La défaillance du système respiratoire, je le vois comme une pirouette, tu vois.
Ouais, c'est vraiment le petit twist du genre, ça va, ses poumons, ils vont mourir, alors elle doit mourir elle aussi.
Totalement,
Puis bon, il y a aussi le fait que Chloé doit mourir, je veux dire, c'est un peu le Chloé, elle meurt combien de fois, tu vois, ça en devient un gag à la fin. La scène de fin avec David, c'est une espèce de compression de ce qui lui arrive, parce que Chloé, elle peut se faire écraser par un train, elle peut se prendre une balle dans la tête.
C'est vrai,
vous avez passé combien de temps sur la quinzaine d'heures de jeu à sauver Chloé, quoi, c'est terrible. Mais dans le traitement de cette thématique-là du handicap, ce qui est rigolo, c'est que le jeu vidéo est un média qui traite de la mort en permanence, qu'on ne fait que mourir et tuer les gens. Mais par contre, dès qu'on doit vraiment en parler, alors là, bizarrement, il n'y a plus personne. C'est toujours des sujets qui sont très difficile à amener, tu vois. Moi je pense à un jeu qui s'appelle
Dragon Cancer.
Où il parlait du cancer d'un enfant et des parents qui essayaient de raconter leur vie avec ce môme qui était diagnostiqué d'un cancer à un très jeune âge, et des jeux comme ça qui essayent d'aborder des thématiques très sérieuses, il y en a très peu. Et donc après, évidemment, venir sur scène prétendre en mode Yves Guillemot qu'il n'y a pas de politique dans leur jeu, c'est évidemment une illusion, c'est plus pour, on va dire, éviter les problèmes.
Oui, j'ai l'impression, parce que tu te dis, quand on joue à votre jeu, c'est pas du tout ce qu'on ressent. Pas vrai, donc c'est vrai qu'il y a
des thématiques qui sont abordées. On disait harcèlement scolaire, handicap, viol, en tout cas qui est un petit peu métaphorisé. C'est des visions politiques, tu vois. Le traitement, le fait d'en parler dans un jeu vidéo, c'est un choix, c'est une vision.
Oui, donc forcément, dès qu'ils abordent quelque chose, ils ont une manière de le traiter qui montre en fait finalement quelque part leur propre vision des choses. Ils font pas exprès, il y a des choses qui vont s'échapper dans l'écriture, peut-être à leur insu, mais ils parlent de Blackwell, alors ils vont parler des soirées étudiantes. C'est présenté quand même d'une certaine manière, tu vois, c'est pas présenté sous un côté cool. Tu sens quand même que c'est un peu des cons, les mecs qui sont dans le Vortex Club, c'est un peu des bullies, comme tu dis, tu vois, ils font un peu chier le monde.
Il y a la famille de riches qui possède la ville, qui a le contrôle, enfin.
Donc il y a vraiment plein de petits sujets comme ça qui sont disséminés, et on sent bien que eux, ils ont voulu donner quelque chose, mais finalement ils ne l'assument pas. Alors moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans cette idée-là, c'est de prendre du recul en se disant, c'est des glandus de dire qu'il n'y a pas de politique à l'agenda, mais on remet dans le contexte d'un monde du jeu vidéo actuel où, parce que tu affirmes quelque chose, ou juste le fait parce que tu es une femme et que tu bosses dans le jeu vidéo, tu peux te faire harceler, tu peux te faire menacer de mort, on peut avoir des bombes posées dans ta salle de conférence. Enfin, je veux dire, on est dans un monde assez dangereux du jeu vidéo, et donc ils ont peut-être préféré prendre de la distance avec ça pour éviter des emmerdes.
Ouais, peut-être. Hein. Mais c'est vrai que tu dis, bon, en plus, voilà, c'est deux mecs. Je crois qu'on avait regardé les crédits du jeu. C'est vrai c'est quand même un jeu qui parle de deux femmes, de deux jeunes femmes, quand même, qui vont aborder des problématiques sur le handicap, sur le fait d'être queer, d'être sur la sexualité, des choses comme ça. Et tu te dis, est-ce que ces gens-là, ils maîtrisent tous ces trucs-là? Tu vois, en termes d'écriture, c'est pas forcément évident d'aller toucher à tous ces trucs, de mettre tout ça dans ton jeu et en essayant de pas être borderline sur aucun des trucs, d'être vraiment clean partout. Je pense que c'est un exercice difficile et c'est vrai que le jeu a reçu quand même quelques critiques de la part des communautés d'handicapés ou de la communauté queer sur certains traitements. Et tu dis, c'est vrai que c'est peut-être. Je pense que. Je sais que sur leur prochain, sur Life is Strange 2, ils sont allés un peu plus loin justement. Ils ont dit que justement, ils avaient plus envie d'assumer leurs idées politiques. Ouais, je crois qu'ils parlent d'immigration. Il y a des rapports à Trump ou des choses comme ça. Donc voilà, ils vont peut-être aller plus loin maintenant avec la suite.
Et je pense que c'est plus intéressant parce que d'un côté, ils vont effectivement peut-être se mettre à dos certains joueurs, mais justement, c'est toujours mieux que d'être dans une situation de l'eau tiède. Tu vois, vu qu'on est dans un monde qui est relativement polarisé aujourd'hui sur des tonnes et des tonnes de sujets, on peut être pour ou on peut être contre, mais être neutre, c'est toujours considéré comme être pour. Tu vois, il y a tout un tas de citations. Dès que tu regardes n'importe quel sujet sur Twitter, les gens qui essayent d'amener un petit peu de neutralité sont considérés comme étant pour, parce que du coup, comme tu ne luttes pas contre une forme d'oppression, ça veut dire que tu la indulge.
Tu la laisses faire.
Donc c'est pour ça qu'on est poussé aujourd'hui à une forme de polarisation de nos opinions. Et là, le jeu, je trouve que pour moi, l'expression artistique dans n'importe quelle œuvre, hein, que ce soit un film, un livre ou quoi, doit justement essayer de montrer les opinions, et je pense j'aurais aimé qu'ils assument, donc je suis content de voir si c'est le cas pour la suite, parce que je peux ne pas être d'accord avec eux, mais au moins ils auraient montré ce qu'ils ont envie de faire, parce que le but c'est pas juste d'être contre eux, ça n'a aucun intérêt, c'est pas constructif, mais de voir ce qu'eux ils essayent d'amener, de ce qu'ils essayent de montrer. C'est vrai que le jeu aurait pu aller plus loin, tu vois, moi ça m'aurait pas dérangé à la fin qu'on découvre que finalement Chloé et Max elles restent ensemble,
elles sont ensemble
pour de vrai, ou finalement non, ou finalement peut-être.
Puis même en termes de construction de personnage, ça aurait aussi été intéressant, tu vois, d'aller au bout, mais comme je le disais, tu vois, comme il faut toujours qu'ils te laissent cette place là sur le choix, ils sont obligés finalement presque de garder sur cette neutralité, de pas prendre trop ces risques là quoique bon, remarque, ils auraient pu le faire finalement et laisser d'autres choix,
peut-être pas choix. Parce qu'il y avait une maison de production derrière, parce qu'il y avait des enjeux financiers, on sait pas trop, tu vois. Dans l'épisode 1, on apprend qu'il y a une de ces une des filles là qui est dans l'internat, qui est enceinte, c'est un sujet qui est très très vite laissé de côté, parce qu'il y a un truc qui est tabou aux États-Unis,
surtout qu'il est très très difficile à trouver, hein.
Moi, j'ai vu
juste, tu sais, dans la fin, quand ils te disent...
Elle a un tampon. Elle a un test de grossesse.
Je l'ai vu dans le tableau des scores où ils disaient, est-ce que vous avez vu le test de grossesse? On était 92% de ne pas l'avoir vu, tu vois.
Quel test de grossesse?
Du coup,
c'est un test de grossesse, c'est qu'elle est a priori enceinte. Je l'ai pas vu s'il était positif ou négatif, mais a priori était enceinte, et tu l'apprends par le choix des joueurs.
Et donc, c'est ça que les reproches que j'avais pu voir par rapport au jeu, c'est qu'il y avait des gens qui lui reprochaient de cacher toutes ces petites choses vraiment dans des trucs très, 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 très optionnels, et que certains sujets, il les abordait vraiment de manière très très discrète disant comme ça il y a pas trop de monde qui va tomber dessus, et comme
un
ça on prend pas trop de risques.
Un doubleur anglais qui vise un public nord-américain, la question de
l'avortement, l'euthanasie même aussi.
En France on s'en rend peut-être pas compte, mais c'est un truc aux États-Unis, c'est l'affaire Dreyfus. Parles de l'avortement aux États-Unis, les gens ils se mettent à se taper dessus dans les 5 minutes. C'est vraiment un sujet qui est extrêmement tabou là-bas, qui est extrêmement polarisé, qui est vraiment ultra violent dans tous les médias, etc. Enfin, il y a les pro-life, les machins, les pro-choice et tout. Et donc, du coup, tu te dis, au début, je me suis dit, waouh, c'est cool, ils essayent, tu vois, ils y vont un peu, ils prennent un peu leurs couilles et ils y vont, quoi. Mais finalement, ils se sont rendus compte qu'il fallait quand même un peu lisser et qu'il y avait peut-être des enjeux derrière. Donc, c'est un peu dommage. Moi, j'espère que justement, le succès de ce jeu va leur montrer qu'ils peuvent faire. Je pense que le jeu vidéo aujourd'hui, il est assez mature. Tu vois, Dontnod, j'y réfléchissais pendant qu'on discutait là. Remember Me est peut-être arrivé un peu tôt. C'est un jeu qui est peut-être arrivé un poil tôt. Le jeu vidéo était peut-être pas encore prêt à ce genre de jeu avec des ambitions un peu narratives, etc. Aujourd'hui, en 2019, je pense qu'on peut clairement assumer ce genre de position et les balancer dans un jeu vidéo.
Et l'objet, c'est pas de leur dire il faut qu'ils parlent de tout, de tel sujet, de ce jeu, c'est de dire à partir du moment où t'as décidé de parler de tel sujet, c'est plus intéressant que tu prennes position ou que t'ailles au bout.
Oui, ou en tout cas que tu le fasses de manière éclairée, que tu te sois renseigné sur le sujet, que tu permettes peut-être d'apprendre des choses aux joueurs, parce qu'on peut toujours apprendre des trucs, on sait pas tout, tu vois, il y a des références qu'on n'a pas, il y a des choses qu'on n'a pas, il y a des expériences qu'on n'a pas. Moi je suis pas une femme, je suis pas homosexuel, donc de toute façon je pourrais pas comprendre exactement les subtilités de la relation qui pourrait se nouer entre Max et Chloé, je pourrais jamais les vivre moi-même, mais ils auraient peut-être pu me permettre d'en prendre une certaine, tu vois, d'en ressortir quelque chose, d'en retirer quelque chose, et là au final, ben, comme elles sont pas vraiment ensemble, on sait pas trop à la fin, tu vois.
Et c'est pour ça d'ailleurs que je pense que bah voilà, on peut même conclure là-dessus, c'est ce qui reste, c'est surtout cette ambiance, cette atmosphère que le jeu, le mood un petit peu dans lequel le jeu arrive à nous plonger, plutôt que vraiment des grosses positions prises sur certains sujets, même si ça nous permet, je pense, à chacun de trouver des choses auxquelles on s'est raccroché. Moi, il y a vraiment cette idée de plus voir des gens pendant longtemps, parce que moi je suis pas un bon ami, tu vois, si on se voit plus, loin des yeux, loin du cœur, tu vois. Et c'est vrai que le fait qu'elle revienne à ce truc-là et de se reconfronter dans un truc, ça m'a touché un petit peu plus personnellement, tu vois. Mais bon, voilà, au-delà de ça, c'est vrai que moi, c'est pas un jeu qui m'a non plus époustouflé, bien loin de là, mais je comprends en fait, après l'avoir fait, pourquoi c'est un jeu qui est apprécié et qui a pu toucher des gens.
Mais c'est ça qui est rigolo, c'est que, tu vois, on parlait de The Restrings Club l'autre fois, qui est un jeu qui va te mettre face à beaucoup de questionnements, et là, lui, en fait, essaye, il met en place des questions, mais il te les pose pas trop, parce qu'il sent bien que on risque de se brûler les doigts si on va un peu trop loin. Par contre, il réussit à vraiment installer une atmosphère, une ambiance, ce côté, tu vois, on avait les teen movies, là, je pense qu'on a un teen game qui est peut-être le meilleur exemple de ça. Il y a Oxenfree, qui ressemble un peu aussi dans un certain sens, dans le traitement de l'adolescence, mais là, vraiment, ils ont réussi à faire un truc avec la musique, ces petites end sequences, les ambiances, les choix de couleurs, le fait qu'on incarne, voilà, l'ado, alors elle sait pas si elle veut aller à la soirée, enfin tu vois, c'est toutes ces petites problématiques, et c'est vraiment ça, ouais, moi que j'en retiens, cette espèce d'ambiance, ces petits jeux. C'est bizarre parce que c'est pas un jeu feel good, parce que c'est pas drôle ce qui s'y passe dans Life is Strange, mais j'étais quand même bien.
C'était un peu cocon, un peu dedans.
C'est ça, exactement, ouais, c'est ce que tu disais, on avait parlé de cotonneux, tu vois, t'as une petite ambiance, t'es dans ton petit truc, t'es dans ton petit.
C'est bientôt Pâques, on est là-dedans, c'est les petits œufs avec la petite mousse à l'intérieur, voilà, on était là-dedans.
Et aussi un petit peu toute cette cohérence entre la mécanique du rewind, questionnement, le voyage dans le temps, le passage à l'âge adulte. Quand on se penche un petit peu dessus, on voit que ça, il y a des bons échos entre chaque truc, même si c'est pas toujours réussi, comme on disait dans les détails. C'est pas un jeu qui nous a mindblow, que ce soit sur les thématiques ou la mécanique de rewind et la façon dont elle est implantée, mais c'est toujours cool à voir.
Mais il arrive quand même à trouver une certaine cohérence, et c'est quand même déjà pas mal pour un projet comme
et
ça.
Puis, du coup, c'est ce qui a permis aujourd'hui à Dontnod de repartir sur de bonnes bases, de vraiment installer une identité qui est la leur aujourd'hui, et bah, on va voir justement jusqu'où ils vont aller, puisque là, bah, y a Life is Strange 2 qui est en cours,
qui n'a pas de mécanique de rewind,
donc bah, du coup, on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans fin du game d'ici deux ans, on n'en sait rien, mais grâce à vous sur Patreon, si vous voulez qu'on soit encore là dans quelques années, mais voilà, je suis curieux de voir, parce que ça a été vraiment une espèce de nouvelle fondation. Le studio s'est planté sur leur premier jeu, là, ils ont fait un deuxième et ça a vraiment marché, et c'est à partir de là qu'ils sont partis, donc je voudrais voir jusqu'où ils vont pouvoir aller pour maintenir ce truc-là.
Très bien, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Merci messieurs, on se retrouve évidemment dans deux semaines pour un nouvel épisode de Fin du Game. N'hésitez pas à nous soutenir sur Patreon, comme le disait Exerve, et puis merci de nous avoir écoutés.
Salut.
À très bientôt, ciao.